Voilà, bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Donc nous sommes le lundi 4 octobre 2021 et nous sommes toujours prisonniers de la matrice. Donc nous sommes ici ce soir ensemble pour discuter, commenter la dernière mise à jour de situation planétaire du contact Ecobra qui s'appelle « Tenir la lumière, deuxième partie ». Nous sommes déjà une centaine de participants, donc bienvenue à tout le monde, bienvenue aux habitués, bienvenue aux nouveaux venus. Et puis, on va faire un petit tour de table rapide. Donc, moi, je suis Hervé, je m'occupe du blog Révolution Vibratoire, ainsi que du site de vidéo divulgation et spiritualité qui s'appelle lèvelevoile.fr. Bienvenue à tous. Allez, Cindy, à toi de te présenter rapidement, on fait un petit tour de table rapide.
Merci Hervé, donc bonsoir à tous, je m'appelle Cindy. Je gère le site français de Prepare for Change, préparez-vous au changement, ainsi que le site français des méditations French We Love Mass Meditation, des groupes Facebook et Telegram. J'anime aussi les sessions françaises et anglaises de désimplantation qui ont lieu les mercredis soirs. Et je suis liée à la civilisation ancienne d'Hyperborée côté lyrien. Voilà.
Merci Cindy. Sandrine, si tu n'es pas athée.
Bonsoir à tous et toutes. Donc, c'est Sandrine avec Florence et Marie-Louise aussi qui participent bien aussi à l'animation. Nous animons le canal Méditons Ensemble pour la libération planétaire avec pas mal de nettoyage sur tous les plans pour pouvoir laisser passer la lumière et s'exprimer.
Super, merci beaucoup. Alors, j'ai vu passer Gwen aussi, notre représentant de Chambre Attaquion. D'ailleurs, on a une annonce à vous faire ce soir. On va en parler tout à l'heure. Vas-y. Gwen ?
Oui, ça y est, je suis là, excuse-moi. Bonsoir à tous. Alors, moi, c'est Gwen de la Chambre Attaquion en Bretagne. Très heureuse d'être parmi vous ce soir.
Ben voilà, c'est bref, mais c'est bien. Et alors, justement, bon, allez, je la fais tout de suite, mon annonce, tant qu'à faire. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on organise en fait un événement en ligne un petit peu exceptionnel. Donc, ce sera le samedi 16 octobre. Donc, ça démarre à 20h30, heure de Paris. C'est un grand marathon spirituel. On a appelé ça marathon spirituel. C'est-à-dire qu'on va pendant, on va dire, près de 4 heures, pour toutes les personnes qui sont prêtes à tenter l'expérience, en fait, on va dérouler tous les outils les plus puissants qui sont à notre disposition pour faire grandir la lumière en nous et puis à la surface de la planète. Donc, et c'est un événement justement en collaboration, on va dire, avec Gwen, puisque on va, pour booster la relation avec nos galactiques, nos familles d'âmes, on vous propose, pour ceux qui le souhaitent, vous donnerez votre photo, vous envoyez votre photo par mail à Gwen et votre photo sera mise en groupe, hein, collectivement, dans la chambre Attaquion à certains moments clés justement de ce marathon spirituel. Donc voilà, bon, il y a un article sur le sujet sur Révolution Vibratoire, je vous invite à aller le découvrir et on espère vous y voir nombreux parce que plus on sera nombreux, plus ce sera puissant pour nous et pour la planète. Voilà, c'était la petite annonce. Alors j'ai vu que André souhaitait se présenter, vas-y André.
Oui, bonjour, je suis André de la Chambre Attaquion de Normandie, on est sur Caen et très heureux d'être parmi vous ce soir.
Merci André. Et alors, pour finir le tour de table, il y a encore Florence et Marie-Louise. J'espère que je n'ai oublié personne. Un petit mot, Florence, ou pas, non? Non? Bon, alors on démarre. C'est parti. Donc, bienvenue à tous. Donc, nous sommes 116 participants. Donc, bienvenue pour commenter ensemble donc la dernière publication du Contact Ecobra, Tenir la lumière. Alors, l'éco-animateur, vous prenez la parole quand vous le souhaitez. N'hésitez pas à m'interrompre, surtout que j'ai tendance à être un peu trop bavard. Et pour de l'interactivité, justement, donc les auditeurs ont la possibilité de lever la main. Donc, il vous suffit de cliquer sur votre micro, un petit bonhomme bleu qui lève la main apparaît. À ce moment-là, on vous si on peut, si c'est opportun, si c'est le bon moment, on vous donne la possibilité d'activer votre micro. Et à ce moment-là, vous devez activer votre micro et seulement là, vous pouvez parler. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous avez un micro rouge. Vous devez de lever la main pour pouvoir prendre la parole. Ceux qui ont le micro gris sont les personnes qui n'ont pas besoin de lever la main pour prendre la parole. Donc voilà, on démarre. Allez, c'est parti. Donc, cette mise à jour date de quand ? Date d'avant-hier, je crois. Donc, elle est toute récente. On l'a préparée un petit peu à l'arrache, on va dire ça comme ça. Mais on a quand même beaucoup de choses à partager, vous allez voir. Alors, donc, il se passe beaucoup de choses en coulisses, mais il n'est pas possible d'en dire beaucoup pour des raisons de sécurité. Néanmoins, je vais en révéler autant que possible. Donc là, c'est le contact Ecobra qui parle. Donc, septembre a été un mois très intense. Les forces de la lumière ont réussi à éviter 3 différentes situations planétaires dangereuses qui auraient pu avoir des conséquences plutôt graves. Alors, je ne vous cacherai pas que, en fait, on s'étonnait un petit peu du silence parce que il y a eu beaucoup de temps s'est écoulé entre la dernière publication de Cobra et celle-ci. Donc, je crois que c'était 1 mois et 10 jours. Et on se doutait bien que ce silence était justifié pour différentes raisons. On voit passer aussi les codes de la résistance, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous les connaissez. Mais même si on ne comprend pas ce qui se passe dans ces codes de la résistance, on voit bien qu'il se passe pas mal de choses en coulisses. Et voilà. Et nous-mêmes, on voit passer des choses aussi un petit peu avec notre petite lorgnette. Mais c'est pas une surprise de voir cette première affirmation. Mais on est quand même content d'avoir cette mise à jour parce qu'on l'attendait tous avec impatience, on va dire ça comme ça. Donc je sais pas, ouais, Jonathan, hein, vas-y, tu prends la Jonathan, Cindy et tout le monde, hein, prenez la parole quand vous le souhaitez. À chaud, votre réaction par rapport à ça. Septembre, un mois très intense. Vous êtes d'accord là-dessus? Bah toi, Jonathan, tu me parlais d'attaque sur ton site web. C'était aussi intense pour toi?
Oui, je vais pas résumer ça à mon site, mais accessoirement. Mais on se doutait, vu les codes qui passaient, c'est un peu ce que tu as dit, je ne vais pas te paraphraser, mais vu les codes qui passaient, vu l'actualité déjà visible dans les actus intérieures et dans la géopolitique, ouais, c'était chaud. Donc, cumulé à l'absence de Cobra pendant 1 mois et 10 jours, on se doutait bien qu'il se passait énormément de choses dans les coulisses, quoi. Voilà, on spéculait, mais apparemment, on ne s'est pas trompé, parce que le poste est riche en substrat, quoi.
Ouais, d'ailleurs, je me demande comment on va réussir à arriver au bout du poste, tellement il est riche. Je vois qu'il y a déjà des gens qui lèvent la main, mon Dieu. Alors, j'hésite à vous donner la parole.
Sur YouTube, vous êtes en accéléré, c'est en 2 fois la vitesse de lecture.
Oui.
Oula, il y a un silence, Jonathan et Hervé, vous avez été coupés.
Oui, et pardon. J'étais en train de dire que j'avais donné la possibilité à May de s'exprimer par rapport à cette première information sur le fait que septembre avait été un mois très intense.
Énergétiquement, ça a déménagé, oui.
Ouais, il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses et des choses qu'on peut ressentir effectivement de notre côté. Alors, l'indice qui est donné par… Vas-y.
Non, j'y vais, on t'entend couper.
Vous m'entendez couper ? Alors, donc je disais, donc l'exemple qui est donné par Cobra, donc ce premier lien, parce que les publications de Cobra sont toujours très, très riches en liens, que les gens vont assez peu voir d'ailleurs, d'expérience. Bon, c'est vrai que c'est souvent des liens en anglais et c'est pour ça que Jonathan et puis moi j'essaye aussi de mettre des liens en français pour pouvoir illustrer ces publications. Donc le lien qui est donné là, c'est par rapport à ARP. En fait, il y a eu une publication sur un site militaire, donc très officiel russe, qui parle justement des conséquences potentielles de ARP. Je ne sais pas si tu as été le voir, Jonathan. Donc j'ai été voir rapidement, mais il parle de conséquences assez désastreuses pour la planète que pourrait avoir justement le projet ARP. Enfin, c'est plus qu'un projet, hein, c'est une arme géophysique. Et notamment, il parle de la dérive du pôle magnétique qui pourrait être liée à l'utilisation de ARP. Alors, Moi, je ne sais pas exactement quelle est l'allusion de Cobra, mais en tout cas, les Russes communiquent officiellement, très officiellement, sur les dangers du projet ARP.
Alors, je vais t'interrompre, je fais une question parce que c'est pas précisé dans le poste, mais moi, je suspectais, j'en discutais avec quelques personnes du réseau, et je suspectais fortement que les grosses, grosses activations et réveils des volcans, en fait, étaient artificiels et issus de la cabale. Parce que dans le Forum économique mondial, que ce soit Klaus Schwab et d'autres personnes très haut placées, précisaient qu'après les confinements épidémiques, entre guillemets, ce seraient des confinements climatiques qu'on aurait, quoi. Et donc voilà, je suspectais fortement que ces volcans allaient impacter à l'échelle mondiale et surtout l'Europe. Et je pense que c'est une partie des éléments que Cobra ne cite pas, mais auquel il pense quand il dit qu'on a évité, des lourds dégâts, quoi.
Intéressant. D'accord. Ben merci pour ton pour ta lecture.
Ouais, et puis c'est pour ça aussi qu'il proposait avec le volcan là qui s'est au large du Maroc là sur les îles Canaries. En fait, il demandait des grosses méditations mondiales pour lui également. Et c'est vrai que quand il est sorti en éruption, c'était on sentait que il y avait une espèce de sorte de que tout sorte en fait au niveau des volcans et tout. Je rejoins beaucoup Jonathan là-dessus. Et quand il y a la méditation de masse sur le volcan de l'Espagne, ça m'a pas étonné du tout non plus. Hein.
Très bien. Merci pour votre grille de lecture. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires sur ce point.
Oui, nous, on a vu, quand on a fait les colonnes, justement, sur la Palma, on en a fait une, d'ailleurs, encore aujourd'hui, et a priori, avec ARP, ça vient une relation.
Reste bien près du micro, Florence, ça coupe un petit peu. Est-ce que justement tu peux préciser les actions que vous faites, parce que c'est super intéressant et je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes de vous rejoindre, parce que vous faites des méditations quotidiennes justement sur des cibles particulières, un peu comme des snipers ou des opérations commando, mais énergétiques.
Oh là, mon Dieu, Sandrine n'est plus à même de parler que moi, je ne suis pas très douée pour parler, mais en gros, oui, on fait des actions sur des lieux que soit on fait des colonnes. En fait, on a des points de départ, et au fur et à mesure qu'on fait des colonnes, on a d'autres points qui nous sont faits d'autres. Et comme ça, au fur et à mesure, donc on en trouve plein au fur et à mesure. Et donc là, on en a plein parce qu'on en fait 4 par jour. Donc 4 fois 5, 20, on en fait 20 dans une semaine, ça fait mal, quoi. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, on aurait bien besoin d'aide pour dépoter un peu plus.
Donc en fait, mince, pardon. C'est le groupe Telegram qui s'appelle Méditons ensemble pour la libération planétaire, dont parle Florence. Alors, vous voyez le nom Gaïa Sol, hein, avec la sorcière bien-aimée qui s'affiche. Et qui est associée au canal Méditons ensemble. Donc, dans le canal Méditons ensemble, il y a tous les supports qui sont utilisés, les outils qui sont utilisés, qu'on utilisera d'ailleurs pour notre marathon spirituel que j'ai introduit en début d'émission. Et donc voilà, donc il y a ces méditations qui sont trois fois par jour. Donc effectivement, on a besoin de vous si vous souhaitez nous aider et participer à ces actions énergétiques ciblées, notamment à travers des colonnes bouddhiques, mais pas que. La colonne bouddhique est l'outil, on va dire, principal utilisé, mais il y en a d'autres. Donc voilà, merci Florence. Alors on va avancer la lecture. Donc un petit peu plus loin. Donc il est dit que le point d'inflexion du 18 septembre s'est déroulé mieux que prévu et le nettoyage de l'anomalie subquantique physique a commencé. Depuis le 18 septembre, les forces obscures commencent à perdre leur emprise sur le plan physique et chaque scénario négatif qu'elles déclenchent se retourne contre elles, car de plus en plus de personnes s'éveillent, ce qui leur fait perdre encore plus de pouvoir. Alors là, je vous avouerai que en ce qui me concerne, nous, on a été un petit peu déçus. On était sur les starting blocks. On avait noté ça dans notre calendrier, enfin dans notre calepin là. Le 18 septembre, on avait mis une croix rouge dessus. Alors on s'est dit là, il va se passer un truc, mais ça va être énorme. On ne sait pas quoi, mais il va se passer un truc. Et en fait, pour nous, il s'est rien passé. En tout cas, on n'a rien vu. Sans doute parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux, et tant mieux. parce que voilà, finalement, il se passe quand même des choses. Et c'est vrai que, bon, on parlait des volcans tout à l'heure, on pourrait quand même dire que l'usage de harpes et des armes géophysiques, ça peut être quand même des actions des forces sombres. Mais en tout cas, on sent bien que effectivement leurs scénarios sont contrariés. À une époque, on nous aurait déclenché des attaques sous faux drapeau, des attentats, des choses comme ça. Aujourd'hui, ils ont l'air de ne plus pouvoir déclencher ce genre d'action. Je ne sais pas, si, Jonathan, est-ce que tu souhaites commenter ce point-là ?
Ils ne peuvent plus déclencher de faux drapeaux.
Non, mais pas ce point-là en particulier. Sur le point d'inflexion du 18 septembre, d'une façon générale, je ne sais pas si toi, tu as senti quelque chose.
Alors, senti, non. J'avais quelques attentes, quelques projections mentales, comme un peu ce que tu as évoqué. Mais j'avais quand même beaucoup de réserves. J'étais pas très. Je me préparais pas spécialement à sortir le champagne, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Parce que il y a rien de trop visible et trop fort qui va se produire pour le moment. Ce sera vraiment tout juste avant l'événement, peut-être les 2-3 semaines avant, où là il y aura des choses à la fois dans les actualités, la géopolitique, l'économie, qui pourraient être très très bousculées. Mais rien de trop visible. Donc je m'attendais à quelque chose en fait qui soit ressenti, enfin ressenti entre guillemets, qui se passe au moins 90% dans les coulisses, et qui ait peut-être quelques petites répercussions d'une manière ou d'une autre, mais je m'attendais à rien de très très visible.
D'accord. Bon, ben ouais. Alors après, donc il parle d'un concept un peu bizarre. Il parle du nettoyage de l'anomalie subquantique. Donc ce nettoyage de l'anomalie subquantique physique a commencé. En fait, ça fait référence à un ancien poste. C'est un peu compliqué. En fait, on vit une guerre multidimensionnelle. Hein. Vous connaissez notre discours sur le sujet depuis pas mal de temps. Mais on vit aussi une guerre. En fait, c'est une guerre quantique également. Et parce que l'un des éléments clés qui finalement permet de maintenir la quarantaine à la surface de la planète, c'est l'existence de bombes dites toplettes. Des bombes toplettes, c'est quoi ? C'est des bombes qui sont basées sur des quarks top. Hein, c'est des corps physiques élémentaires, hein, que connaissent les physiciens. Et ces bombes toplettes sont des bombes quantiques. D'une certaine façon, elles sont particulièrement destructrices et partout à la surface de la planète. Et si elles étaient déclenchées, ça pourrait entraîner une destruction massive de la planète. Donc c'est un des points les plus difficiles à résoudre, en fait. Mais alors, peut-être que j'anticipe un petit peu, parce qu'il me semble qu'il en reparle un petit peu plus loin. Ouais, il en reparle un petit peu plus loin, mais tout ça pour dire que, en fait, moi, j'ai été un petit peu déçu par cette mise à jour initialement. J'ai commencé par voir les aspects un petit peu décevants, dont on va reparler tout à l'heure, mais celui-là, en fait, en refaisant une lecture attentive, je trouve que c'est un point qui est majeur, mais je vais en reparler tout à l'heure, justement, quand on va reparler des bombes toplettes un tout petit peu plus loin.
Pour l'instant, alors après, il y a une anomalie primaire, il me semble, Hervé.
Vas-y, exprime-toi sur l'anomalie primaire.
Oui, parce que dans PFC, enfin Prepare for Change, on avait publié un article que j'ai résumé. Donc, alors l'anomalie primaire, c'est un bien grand mot. Hein. Donc, on peut la mettre ensuite en lien avec ARP vers la fin de mon exposé. Donc, l'anomalie primaire, c'est quoi donc, la source ou créateur de cet univers est présente dans toute la création. Il est l'aspect fondamental de chacun d'entre nous. Tout part de la source, évidemment. Nous sommes en même temps, il est au-delà. On peut le trouver partout, en tout temps ou espace, dans toutes les dimensions. Le continuum espace-temps est une création de la source afin de s'explorer, de se refléter. La source, créatrice, travaille constamment en improvisant pour explorer la création. C'est pour ça qu'on dit que l'univers est en expansion continue. Donc, la création est fondée sur les possibilités quantiques infinies. Et parmi ces possibilités, nous avons ce qu'on appelle la contingence. Donc, la contingence signifie aléatoire. C'est le potentiel qui fait que les choses arrivent au hasard, de manière inattendue et non par la conception. Cela signifie aussi que certaines tournures que prennent les événements ne sont pas entièrement le résultat de la conception de la source ou de la création du monde. Ils sont tout simplement le fruit du hasard. Cependant, ils peuvent être influencés et recréés si nous utilisons notre libre arbitre, parce que le libre arbitre est le facteur dominant dans la dynamique quantique. Cela signifie que, malgré le fait que la source soit parfaite en elle-même, elle est toute puissante dans le continuum espace-temps, Mais chacun d'entre nous, comme des représentations fractales de la source au sein de cette construction, peut manifester la volonté de la source au sein de la construction. Alors, à l'origine, l'univers entier vivait en harmonie et personne ne savait ce qu'est le dommage intentionnel, tout simplement parce qu'il ne fait pas partie de la nature de la source. La source ne peut jamais produire le mal. Elle est amour absolu et pure harmonie. Cependant, certains événements se sont produits en raison de la contingence. Et ils furent parfois malencontreux, comme par exemple une comète qui peut s'écraser au hasard sur une planète. Donc, par rapport aux circonstances actuelles sur la planète, c'était encore très facile à gérer et autrefois, les gens vivaient dans le paradis sur la Terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il y a environ 8 millions d'années, certains archanges puissants ont décidé d'absorber la contingence dans leur être, de l'incarner et d'en prendre la responsabilité afin de l'harmoniser avec leur conscience et d'en supprimer les aspects désagréables. Mais ce fut trop pour eux et ils ne purent pas la manipuler. Ils furent submergés par la contingence, par ce potentiel de choses qui ne procèdent pas de la conception. Donc, ils sont devenus déconnectés de ce qui procède de la conception, donc déconnectés de la source. Ils ne pouvaient plus retrouver leur chemin de retour. Ils en ont énormément souffert. Donc, le reste de l'univers ne savait pas comment réagir immédiatement de manière appropriée, tout simplement parce que par nature, cet événement était inattendu, imprévisible. Donc, souffrant sur une longue période de temps, ces anges en sont arrivés à perdre leur santé mentale et ils sont devenus violents. Ce sont les êtres maintenant connus sous le nom d'archontes, autrement dit les anges déchus. Donc, voici comment le dommage intentionnel ou le mal en est venu à être. Donc, les archontes ont commencé à attaquer les planètes de la Confédération galactique qui s'est organisée pour contrer cela. La Confédération galactique a libéré les planètes une par une et nous assistons maintenant à la fin de cette histoire qui se joue sur la planète Terre où les archontes ont projeté leur traumatisme en recréant des conditions similaires à celles qui les avaient déconnectées en premier lieu. Alors, comment a réagi la source ? Donc, la source a maintenant appris qu'elle doit intégrer comme une sorte de bouton de reconnexion automatique, hein, comme un reset, dans le modèle de la création, qui sera mis en œuvre une fois que tout sera reconnecté et réinitialisé. Donc, ceci est essentiel pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, car la désharmonie n'a jamais été nécessaire, n'a jamais été prévue, et tout est destiné à être reconnecté en harmonie, tout simplement parce que c'est la vraie nature de la source créatrice. Donc, depuis, un grand nombre de programmes ont été créés par les archontes pour justifier le mal, notamment les lois du karma. Donc, ceci est une conception totalement artificielle et n'a rien à voir avec la vraie loi universelle. Tout simplement parce que si elle procédait ainsi, rien ne serait jamais résolu et la souffrance ne ferait qu'escalader à l'infini. Donc, pour comprendre un peu mieux, en fait, pour résumer, on peut faire une petite comparaison. Imaginons l'univers comme un grand orchestre. Avant de jouer de la musique, tous les instruments vont s'accorder les uns avec les autres afin de s'assurer qu'ils sont en harmonie. Si cela ne se fait pas, si un seul instrument est désaccordé, la musique ne se fera pas entendre et il ne pourra y avoir de création. C'est seulement lorsque tous les instruments sont en harmonie que la création peut vraiment commencer et ensuite les possibilités d'exploration de la musique sont infinies. Donc voici comment fonctionne la création. Donc, l'exploration est seulement possible quand il y a harmonie. Alors maintenant, je vais relier tout ça à ARP. Donc, les archontes utilisent encore leur technologie de champ électromagnétique scalaire ARP, astral et éthérique, afin de continuer à maintenir la soi-disant anomalie primaire. Donc, l'anomalie primaire est une fonction d'onde aléatoire, une distorsion des variétés Calabi-Yau, donc un champ de petits trous noirs, un terrain compliqué de fluctuations quantiques, un terrain semi-conscient de l'antivie qui essaie toujours de supprimer la lumière par défaut. Donc, cela a été amené en existence à partir de potentialités pures lors de la création de l'univers et est l'antithèse, donc le contraire de l'un, l'unicité, l'union, l'unité. Donc, c'est l'erreur primaire de la création et la principale cause de toutes les souffrances. Toutes les anomalies primaires de l'univers restant ont maintenant été réunies autour du profil de la surface de cette planète, attendant d'être finalement transformées pour permettre la libération définitive de notre planète qui deviendra alors le dernier point de lumière à joindre l'union galactique. Donc les archontes non physiques utilisent encore les trous de ver de ce champ anormalement distordu pour se déplacer librement d'une hémisphère d'un plan à l'autre. Après que les forces de la lumière auront enlevé le champ électromagnétique non physique ARP, les singularités des trous noirs seront mises à nu, les petits trous noirs vont s'évaporer, les variétés de Calabi-Yau vont se redresser et l'anomalie primaire disparaîtra à jamais de notre univers. Ce sera le début de la fin de toutes les souffrances et le début de la vraie guérison pour l'humanité. Donc le noyau de la guérison est pour nous d'être de nouveau la source, créateur, intégralement, pour l'incarner dans la totalité de notre être. Cela signifie ne pas être victime d'événements que nous n'avons plus conçus, et cela se produit en choisissant ce que nous voulons créer, en réalisant que pour être vraiment la source, connecté à la source, il ne peut y avoir aucune autre autorité prenant des décisions pour nous, puisque nous sommes l'autorité. Nous savons déjà en nous ce que nous désirons, ce que nous voulons expérimenter, et nous avons vraiment le pouvoir de le créer, car nous sommes des êtres créateurs. Nous pouvons matérialiser nos pensées.
Voilà. Ok, bah, écoute, il va falloir que je t'arrête, Cindy, parce que sinon, tu ne vas pas t'arrêter, en fait.
Oh, c'est bon, j'ai fini, là, c'est bon.
Non, mais en fait, bon, vous avez compris. Cindy, c'est la première de la classe. Voilà, elle vient de le démontrer. Nous, on est tous venus, on va dire, à la one again, en ayant à peine préparé nos sujets. Cindy a préparé une méga dissertation où elle vous a expliqué les origines du mal. Elle vous a expliqué toute l'histoire de l'univers, en fait, en quelques mots. Donc voilà, on ne fait pas le figure à côté de toi, Cindy, mais en tout cas, c'était super intéressant et j'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, donc excuse-moi de t'avoir coupé, Cindy, mais j'avais peur que ce soit trop long et qu'on perde nos auditeurs. Donc voilà, donc ben merci beaucoup pour tout ça, pour finalement expliquer voilà l'anomalie quantique, les origines du mal. Et puis c'est un discours que nous on a l'habitude de tenir assez régulièrement. Je pense que vous l'avez reconnu, qui est celui de dire que non, le mal n'est pas nécessaire dans l'univers. Le mal est le résultat de la contingence, du hasard. Que le mal n'est pas, je dirais, l'autre facette, d'autre face du bien. L'ombre n'est pas l'autre face de la lumière. En réalité, dans l'univers, ce qui s'oppose à la lumière, c'est la matérialité. Et le mal est apparu, comme l'a expliqué Cindy, dans l'univers. Et nous, on s'oppose justement à cette vision New Age qui vise à nous faire accepter la souffrance et le mal comme une nécessité, comme quelque chose qui nous aiderait à notre développement spirituel. Il n'en est rien. C'est une programmation archonte. Donc voilà. Allez, on va avancer parce que sinon, on va avoir du mal à tout dérouler. Alors, Cobra nous donne une petite illustration avec un texte. Je vais vous le lire la traduction en français directement. Hein. Donc en fait, il s'adresse à vous, travailleurs de lumière, là, vous qui êtes là sur à nous écouter. Donc si vous êtes parvenus jusqu'ici et que vous songez à abandonner, sous-entendu abandonner le combat, l'abattage, j'en sais rien. Souvenez-vous de ceci. Ils, c'est la cabale. Hein. Ils vous pressurent. Parce qu'ils savent que vous êtes faible. Ils savent que s'ils vous pressurent, vous allez céder. Mais quand vous ne vous rendez pas, ils paniquent et vous serrent plus fort. Plus vous tenez bon, plus ils deviennent fous. Plus ils deviennent fous, plus ils ont l'air fous. Plus ils ont l'air fous, plus les gens le remarquent. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, c'est directement lié à la crise Covid qu'on a vécue. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont ouvert les yeux suite à cette crise Covid. Plus les gens le remarquent, plus les gens se réveillent. Plus les gens se réveillent, plus ils ont peur, ils, les méchants, plus ils ont peur, plus ils deviennent fous. Et plus ils deviennent fous, plus les gens se réveillent. Donc c'est une boucle sans fin, une boucle vertueuse dans laquelle nous sommes rentrés avec cette crise du Covid. Et voilà un petit peu le sens de ces paroles. Je ne sais pas si vous souhaitez commenter cela. Donc, et ainsi de suite jusqu'à la destruction justement de ces êtres sombres, de cette cabale qui nous oppresse à la surface de la planète. Un commentaire? Non? Pas de commentaire?
Si, parce que ça nous arrive d'être un petit peu fatigué, oui, effectivement, comme tous, hein, et on va dire d'abandonner et puis de laisser courir et de laisser faire, et puis finalement, non, on a un petit coup de pied aux fesses et hop, on se remet en lice et pour être créateur justement de notre avenir. par n'importe quel moyen, la méditation, les bonnes actions, la création. C'est vrai.
Voilà, bon, je sais qu'il y a, après, quand le travail s'échelonne sur des décennies, hein, j'en connais des travailleurs de lumière qui ont jeté l'éponge, mais c'est bien compréhensible, après ils ont fait leur part du travail. Mais voilà, en tout cas, le message, c'est qu'il n'est surtout pas, c'est malvenu aujourd'hui d'abandonner, on est tellement près du but, et ils sont tellement devenus fous, et il y a tellement de gens qui se réveillent, que de toute façon, la victoire de la lumière, elle est inéluctable, c'est juste une question de temps, et malheureusement aussi encore de victimes avant qu'on puisse arriver à sortir de ce système matriciel. Ok, bah je vois pas d'autres personnes qui cherchent à intervenir, du coup je continue. La dissolution, alors on revient justement à la physique quantique, la dissolution de l'anomalie subquantique signifie également que les forces de la lumière commencent enfin à résoudre le problème des bombes toplettes. Alors ça, c'est une super méga nouvelle. En fait, je l'ai laissé passer à la première lecture de l'article. Donc, évidemment, c'est des informations qui sont très perchées, mais ça, c'est des informations qui sont typiques du contact Ecobras que vous retrouverez nulle part ailleurs dans la sphère spirituelle ou même, ceux qui font de la divulgation sur les programmes spatiaux secrets ou ceux qui font de la divulgation via canalisation ou soi-disant télépathie avec justement des galactiques. Ça, c'est un concept purement de chez lui. Donc, la lumière commence à résoudre le problème des bombes toplettes. Comment ? En isolant leur rayon effectif de production de topness, alors là, on ne comprend plus rien, dans les bulles d'espace-temps effondrées. Alors, en fait, à un moment, justement, on avait beaucoup parlé des accélérateurs de particules, qui sont des usines à fabriquer du plasma et notamment du plasma des choses négatives en fait pour la planète pour soutenir ce qu'on appelle l'anomalie plasmique et on soupçonne aussi ces accélérateurs de pouvoir justement créer des particules enfin ils en créent hein, des particules des quarks top. Donc les quarks ce sont les composants fondamentaux de la matière. En fait vous connaissez les atomes. Les atomes sont formés d'électrons et d'un noyau. Le noyau est formé de protons et de neutrons, et les protons et les neutrons sont eux-mêmes formés de quarks. Voilà. Et ces quarks, ils ont des couleurs, ils ont des saveurs. Enfin, les physiciens leur ont donné des couleurs ou des saveurs et leur ont donné des caractéristiques qui sont des propriétés de physique quantique. Et il y a des quarks particuliers qui s'appellent les quarks top, qui sont justement la base de ces bombes quantiques toplettes utilisées par les forces sombres. Et alors là, justement, à relier à une mise à jour de situation planétaire précédente, le contact Ecobras nous expliquait qu'il y avait un problème pour tout ce qui était à l'échelle subplanquienne, c'est-à-dire en dessous de la longueur de Planck. Je suis désolé, c'est un peu technique, mais vous connaissez le mètre, vous connaissez le centimètre, le millimètre, mais la longueur de Planck, c'est 10 puissance moins 35 mètres. En dessous de cette longueur de Planck, en gros, on ne peut rien prédire, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, il y avait une conjecture, justement, comme quoi on ne pouvait rien savoir de ce qui se passait en dessous de cette longueur de Planck, et ça posait un problème aux forces de la lumière. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que les forces de la lumière ont trouvé une solution pour pouvoir, justement, empêcher que les forces sombres continuent à produire ces quarks et ces bombes toplettes. Et donc, c'est une... Enfin, moi, dans ma vision des choses, c'est une super méga nouvelle. Et ça va de pair avec le travail qu'on fait sur la dissolution des implants. D'ailleurs, je précise au passage, puisque les implants, le réseau des implants qui est humain, en fait, les implants primaires sont associés à des bombes toplettes. Mais vous inquiétez pas, hein, ça doit pas vous faire faire des cauchemars. C'est des choses qui existent depuis l'Atlantide. Donc, je pense. Donc voilà. Donc il y a rien de nouveau. Quelqu'un veut intervenir sur
Oui. Si je peux me permettre, on a fait justement une colonne sur les accélérateurs de particules aujourd'hui. Je crois que c'est aujourd'hui, hein, sans doute, parce que je ne sais plus. Et demain, on en fait une sur ARP. Donc, s'il y en a qui veulent venir, c'est avec plaisir.
Allez-y, venez, hein, c'est important. C'est important parce que, en fait, nous, on travaille sur des plans qui sont très subtils. Donc, du coup, notre action, en fait, elle est énorme. Plus on travaille sur les plans subtils, plus l'action est forte. Sauf qu'elle va prendre un petit peu de temps avant de se manifester dans les plans physiques. Elle va mettre un petit peu plus de temps, mais elle va se manifester. Et c'est vrai qu'on a énormément de puissance avec la colonne bouddhique ou avec d'autres outils qui travaillent sur des plans en fait qui sont au-dessus de la dualité, qui ne sont pas accessibles en fait aux forces sombres. Donc merci beaucoup pour votre travail. Alors, si, y a Joe qui a levé la main. Joe, je ne sais pas si c'est une erreur, mais sinon, tu peux activer ton micro. Souhaites-tu intervenir par rapport à ce qui est en train de se dire actuellement? Non?
Oui. Vous m'entendez?
Oui, on t'entend.
Oui, j'avais levé la main un peu plus tôt quand vous parliez, quand Cindy avait parlé du grand article, hein, que j'avais d'ailleurs déjà lu. Mais ce n'est peut-être pas le moment ou l'émission pour en parler. C'est à propos de ce que vous définissez et de l'activité de la source. Parce que moi, j'ai des connaissances d'Extrême-Orient, disons. Et dans ce que j'ai étudié, la source est plutôt, pas plutôt, la source est définie comme étant neutre. C'est pour cette raison que, en fonction du libre arbitre des êtres vivants, la source qui réagit par rapport aux demandes, elle n'a pas, c'est pas une source qui a une volonté, mais les mécanismes qui se mettent en place peuvent être des mécanismes qui engendrent la souffrance ou qui n'engendrent pas la souffrance, qui engendrent des créations positives ou des créations négatives. Et donc, de ce point de vue, je suis un petit peu en décalage, même si, par ailleurs, tout ce que vous dites m'interpelle beaucoup et ça résonne assez avec moi. Mais au niveau de cette anomalie primaire et de l'erreur éventuelle de la source, là, je m'écarte un petit peu par rapport à ce que vous énoncez. Alors, je ne voudrais pas trop épiloguer aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le moment. Sinon, effectivement, moi, je pense que le dernier message de Cobra est fantastique, et en particulier pour cette histoire des bombes toplettes qui est le point délicat qui empêche l'événement. Voilà, je ne veux pas trop épiloguer sur ce point-là, mais si une fois vous voulez qu'on en parle, ce sera avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Joe, pour ton intervention. Super, super intéressant. Effectivement, je pense qu'on pourra revenir plus en détail sur ce sujet-là lors d'une émission dédiée. Ça vaudrait le coup, ouais, absolument. Merci pour ta prise de parole. Alors, du coup, on va pas discuter de ce point-là maintenant, mais en tout cas, ce serait intéressant d'approfondir tout ça. Je suis bien d'accord. Alors la suite. Donc, je passe à la suite. Hein, les bombes toplettes, c'est bon, vous avez compris. Je vais pas vous saouler plus avec ces notions de quark top. Et de longueur de Planck. Mais ceci étant, la suite est tout aussi technique. Hein, encore une fois, hein, Cobra est souvent très, très technique dans ses mises à jour de situation planétaire. Donc, il nous parle du cristal temporel qui est créé par Google. Alors, je me suis quand même un petit peu informé avant de faire cette émission. Cindy a beaucoup travaillé, mais j'ai quand même aussi travaillé un petit peu, moins qu'elle, hein, c'est sûr. Mais... Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cristal temporel créé par Google est en train de créer le premier domaine complètement non anthropique à la surface de la planète, qui défie la deuxième loi de la thermodynamique. Cela aide les forces de la lumière à éliminer l'anomalie primaire, bien que ce ne soit pas du tout l'intention de Google. Alors, si vous allez voir donc dans l'article, que ce soit dans celui de Révolution Vibratoire ou d'Exoportail, je pense, donc on a rajouté des liens francophones. Donc, en fait, de quoi s'agit-il cette histoire de cristal temporel? En fait, Google n'a pas créé un cristal au sens où vous l'entendez comme une pierre, enfin je sais pas, ou un cristal de roche ou je ne sais quoi. En fait, c'est une notion de physique quantique, le cristal temporel. En réalité, donc ils ont un prototype d'ordinateur quantique, donc il s'appelle le Sycamore de Google. Les ordinateurs quantiques, en fait, fonctionnent. Alors les ordinateurs classiques fonctionne sur la base de ce qu'on appelle le binaire, quoi. Donc la notion de bit qui peut prendre une valeur 0 ou 1 en fonction de son état électrique. Et les ordinateurs quantiques fonctionnent avec ce qu'on appelle des qubits, donc des bits quantiques en réalité. Et là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que ils peuvent prendre en fait une multitude d'états différents. Donc en fait, c'est une probabilité d'état. Et du fait de cette multitude d'états différents, on peut s'imaginer qu'un qubit peut manipuler beaucoup plus de données, en fait manipuler des chiffres plus grands, on va dire ça de façon très schématique, qu'avec des bits classiques. Voilà, donc c'est pour ça que l'informatique quantique nous intéresse, parce qu'elle permettrait de booster l'informatique et d'avoir des puissances de calcul qui viendraient complètement écraser celles des calculateurs actuels. Et alors, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que Donc, ils ont, et leur ordinateur, il a 63 qubits, 53 qubits, vous imaginez? Nous, nos ordinateurs, ils ont des milliards de bits, mais eux, ils fonctionnent juste avec 53, donc c'est très expérimental. Mais ce qu'ils ont constaté, c'est que lorsque, justement, donc ces bits, en fait, ils les, comment dire, ils savent leur donner des états particuliers par stimulation électromagnétique, et puis ils regardent après comment le système évolue. Ils ont remarqué que justement le système évoluait de façon périodique, une fois avoir subi une excitation initiale électromagnétique, il subit une évolution en dehors de toute excitation externe. Donc en fait, il va y avoir une espèce d'oscillation de ces qubits, donc c'est ce qu'ils appellent un cristal temporel, une oscillation qui finalement défie les lois de la thermodynamique parce que il n'y a plus d'apport d'énergie externe. Et on a une espèce de mouvement perpétuel. Et le mouvement perpétuel, c'était la quadrature du cercle. C'est pendant longtemps chez les scientifiques, comment réussir à créer du mouvement perpétuel? On n'a jamais réussi à le créer. Et là, visiblement, à l'échelle quantique, à l'échelle du qubit, on a réussi à créer un mouvement perpétuel. Et c'est ce qu'ils appellent un cristal temporel. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et si vous voulez, le mouvement perpétuel sous-tend la notion d'apport d'énergie qui ne serait plus du plan physique, mais qui serait des plans supérieurs. Et c'est pour ça, sans doute, que les forces de la lumière arrivent à utiliser ce cristal temporel pour résoudre l'anomalie primaire, parce que je pense qu'ils l'utilisent quelque part comme un portail pour pouvoir insuffler de la lumière. Donc voilà, voilà mon interprétation des faits. C'est un peu technique, j'en suis désolé, mais voilà, je ne sais pas si quelqu'un souhaite compléter ce point. Si je ne vous ai pas tous mis KO au tapis.
Non, moi, ce que je trouvais intéressant avec la thermodynamique ou bien le fait de l'entropie, c'est que là, ils ont réussi, en fait, c'est ce qu'il expliquait aussi simplement, que tout ce qu'on va faire va toujours vers le chaos. Par exemple, il fait un exemple assez simple. Quand on mélange deux couleurs de peinture, c'est très facile de mélanger, mais si on veut les séparer, c'est impossible. Et en fait, c'est ça, en fait, l'entropie, toujours aller vers quelque chose qui est vers la destruction. Et ce qu'ils ont créé à l'intérieur, c'est qu'en fait, tu vas toujours revenir à un état qui est toujours optimal, en fait. On ne va pas vers la destruction. Et c'est là que c'est hyper intéressant. Donc, ouais, c'est clair qu'effectivement, ça doit être un portail pour la lumière, quoi.
Merci beaucoup. Ton exemple est super, et beaucoup plus compréhensible que le mien. L'exemple du mélange de peinture, c'est un très très bon exemple pour expliquer le concept d'entropie, effectivement. Ouais, super. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Donc, le prochain chapitre concerne les canons quantiques. On est toujours dans la physique quantique de Mjolnir. Mais là, Jonathan, je vais te demander d'intervenir parce que moi, j'ai bien un article sur mon site, mais j'ai été le copier sur toi. Donc, tu es peut-être mieux placé que moi, justement, pour expliquer cette notion qui vient de canon quantique de Mjolnir, le fameux marteau de Thor. Alors, je lis le paragraphe et puis je te laisse nous rejoindre. Donc, les canons quantiques de Mjolnir éliminent l'anomalie primaire assez efficacement et ont commencé à émettre des empreintes de vie parfaites et de plans divins dans le champ quantique autour de la surface de la planète. Et avec ces émissions, il cible particulièrement les résonateurs de fluctuations quantiques, à mes souhaits, et les personnes qui possèdent ces appareils reçoivent un flux constant de mise à jour du plan parfait pour leur vie de la part des forces de la lumière dans le champ quantique qui les entoure. Alors, on est encore dans un pseudo-charabia si on prend pas la peine de froncer un petit peu les sourcils et d'essayer de comprendre ce qu'il veut dire, mais je vous assure que tout ceci fait sens. Alors, on va essayer de donner un petit peu de sens à ça. Jonathan, tu es là? Tu es avec nous? J'aurais bien aimé que tu interviennes sur Mjolnir, mais bon, non, apparemment, non. Bon, alors, technologie Mjolnir, donc dite marteau de Thor, en fait, c'est une technologie qui a été divulguée à travers la série Stargate SG-1. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, il y a un épisode qui parle de ça. En fait, le principe, c'est quoi? C'est en fait, ils arrivent sur une planète via leur Stargate, là, comme d'habitude. Et puis, à un endroit, il y a une grande tour et au-dessus d'une tour, une espèce de lumière qui va scanner justement les visiteurs. Et au moment de scanner l'une des personnes et qui est justement, alors je ne me souviens plus le nom de la tribu, mais qui est une tribu qui avait été négative par le passé. Hop, la personne scannée, elle disparaît et elle est emmenée dans une espèce de prison avec des murs électromagnétiques, je ne me souviens plus exactement. Et en fait, l'idée, c'est une espèce de scanner qui va justement détecter le potentiel négatif d'une personne ou d'une entité, que ce soit dans le plan physique ou dans les plans subtils. Ça peut être une entité qui n'est pas incarnée dans les plans physiques et qui va pouvoir justement la capturer et l'emmener à ce qu'on appelle le centre de tri de Ganymède, qui est un des satellites de Jupiter. Donc cette technologie Mjolnir a été mise en service, je crois, en 2017 par les forces de la lumière. Elle a été d'une efficacité redoutable, à tel point que les forces de la lumière ont été, à un moment donné, et ont été obligées de mettre en suspens l'utilisation de ces canons quantiques Mjolnir, parce que ça mettait en pétard, on va dire ça comme ça, les forces de l'ombre, à tel point qu'elles menaçaient de tout faire péter. Donc, mais voilà. Donc la bonne nouvelle, encore une, c'est que justement ces canons Mjolnir sont à nouveau utilisés pour éliminer donc l'anomalie primaire et sans doute donc les entités qui sont porteuses de cette anomalie. Et alors, donc je ne sais pas déjà par rapport jusqu'ici, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir, compléter. Est-ce que vous souvenez-vous de l'épisode de la série Stargate SG-1 qui parle du marteau de Thor? Non. Mais en tout cas, si vous souhaitez voir l'épisode, je pense qu'il est toujours sur nos sites, sur le site de Jonathan, donc Exoportail, ou sur mon site Révolution Vibratoire, vous pouvez trouver l'article qui parle de cela et retrouver le petit épisode de la série. Très intéressant à visionner. Donc voilà. Et alors, on parle, il continue donc en parlant des résonateurs de fluctuations quantiques. Alors ça, c'est un truc qui peut vous paraître complètement barbare et de science-fiction, mais figurez-vous que certains d'entre nous en ont un. Alors, je dis pas de nom, mais parmi les possesseurs d'un résonateur de fluctuations quantiques, voudriez-vous prendre la parole pour nous expliquer ce que c'est ? Bon, c'est pas un secret, hein. Allez, vas-y, André.
Oui, toutes les chambres, en principe, en ont un. Hein, c'est le résonateur... fluctuation quantique, il harmonise en définitive l'énergie sur tous les plans, qu'ils soient subtils ou physiques. Donc, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on prend de la vitamine D, par exemple, pour l'harmoniser. Souvent, on prend de la vitamine K, voilà, qui va harmoniser la vitamine D dans le corps. Mais là, c'est un petit peu la même chose, quoi.
Mais à quoi donc, ça ressemble, justement ? Tu peux nous le décrire, là, ce...
Ouais,
cet objet,
ça fait un double entonnoir, mais en définitive, c'est un tore, quoi. C'est tout à fait un tore, mais ça fait un double entonnoir avec un cristal au milieu, un double entonnoir en métal qui ressemble à du cuivre, avec un gros cristal au milieu qui est percé, qui est entièrement percé, et qui fait le tore, quoi. Voilà un petit peu comment il fonctionne. Et dans toutes les chambres à tachyons, donc il complète en définitive, c'est pas une technologie tachyon, mais il complète très bien la technologie tachyon, quoi, pour harmoniser l'énergie qui passe dans la chambre.
Voilà un peu ça. Ouais,
peut-être Gwen peut expliquer également un peu.
Mmh. Ouais, Gwen, ce serait pas mal, ouais, que tu nous en parles.
Ouais, en fait, ce résonateur, exactement, il est fait d'un cristal au centre qui est un dodécaèdre dans les solides de Platon, et avec deux autres noirs de chaque côté. Et en fait, en étudiant sur mon site, je l'ai un petit peu étudié les observations que j'ai découvertes dessus. Et en fait, on se rend compte que ce tout petit objet peut autant représenter un univers, une galaxie, une planète, un corps humain, un chakra ou même une cellule, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un appareil qui n'est pas très haut, hein. Il doit faire 20 cm de haut, mais qui a une puissance, en fait, à l'intérieur qui est assez incroyable. Et du coup, ouais, dans sa conception et des matériaux avec lesquels il est constitué et de l'observation qu'on peut en faire, on se rend compte qu'en fait, on a un peu une définition du mouvement de l'univers. J'irai jusque-là, moi, personnellement. avec ce petit appareil, quoi. Donc là, quand il exprime par rapport au résonateur de fluctuation quantique, j'ai pas du tout été étonnée, en fait, de ce poste-là. Et je dirais même que, quelque part, il le dit officiellement, en fait, que ce sont des petites portes, en fait, ces résonateurs de fluctuation quantique, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un objet qui est hyper intéressant et qui est, en fait, très, très puissant, quoi.
Je peux ?
Oui, vas-y, vas-y.
Oui, est-ce que ça...
Vas-y, Joe, tu peux réactiver ton micro. Tu voulais poser une question sur le résonateur.
Oui, est-ce que c'est le même objet que dans une émission avec Astrid Schuckelberger? Il y avait quelqu'un qui parlait de la purification de l'eau et c'est également un tor. Parce que ma question, c'est est-ce que ça coûtait assez cher dans les 3-4 000 euros, je crois. Et le tor dont vous parlez, est-ce que c'est la même technologie? Parce que ça ressemble fortement. Et la deuxième question, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver, acheter quelque part
Je te laisse répondre, Gwen.
Ouais, je sais pas l'objet dont avec lequel il compare le résonateur, donc je pourrais pas répondre à cette question. Moi personnellement, ce que je sais du résonateur que Cobra met à disposition, ils ont une activation, c'est-à-dire que si une des deux trompettes se défaisait, et ça je pense que Hervé tu vas pouvoir en témoigner, il faut surtout plus l'utiliser. C'est comme si on avait une espèce de porte quantique. Sur laquelle on ne sait pas trop vers quel où ça va s'ouvrir. Je dis ça parce que bon bah Hervé, je pense que tu peux partager peut-être ce que tu avais vécu avec justement une des deux trompettes qui s'était défaite et qu'on ne savait pas en fait qu'ils étaient activés dans un certain sens, quoi.
Alors oui. Alors, bon, donc c'est résonateurs de fluctuations quantiques. Donc en fait, donc voilà, on vous l'a décrit, hein, c'est deux entonnoirs connectés dos à dos sur un dodécaèdre de cristal tachyonisé. En fait, ça fait portail en réalité. Et c'est pour ça que apparemment les forces de la lumière l'utilisent pour on va dire ancrer de la lumière à la surface de la planète. Voilà. Pour là où ces résonateurs sont présents et notamment dans les chambres à tachyon. Mais donc ces résonateurs ça peut être utilisé aussi comme outil thérapeutique. On va dire ça comme ça. Bon, pour répondre à Joe, pour moi, c'est pas la même chose que ce dont tu parlais, hein, Joe. C'est, je pense pas, mais bon, à voir. En tout cas, ça me dit rien. Ces objets, si effectivement, s'ils sont, s'ils se déboîtent, ils nécessitent une réactivation. Et s'ils sont pas réactivés de façon correcte, ça peut devenir des portails justement pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est un objet très puissant. Très intéressant et hyper puissant, mais comme c'est de la technologie, on va dire une technologie extraterrestre, on va dire les choses telles qu'elles sont, il faut faire attention. Et si vous en avez un, si vous en achetez un et qu'il se déboîte, surtout faites-le réactiver et ne l'utilisez pas sur vous, ça pourrait se retourner contre vous. En tout cas, voilà. Moi, ce que je voudrais dire simplement aussi, c'est qu'il y a des personnes qui en possèdent un, elles se reconnaîtront ici. Et qui se promène avec, c'est une très bonne idée parce que justement, comme ces résonateurs sont utilisés justement comme pour capter ce flux d'énergie, pour ancrer de la lumière à la surface de la planète, l'idée de se déplacer est assez intéressante puisque ça va permettre justement de toucher différentes zones géographiques. Donc il y en a dans les chambres à tachyon, mais il y en a aussi qui se baladent avec. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Voilà. Donc voilà, on a beaucoup parlé de cet objet bizarre et mystérieux que finalement personne ne connaît, qui s'appelle les résonateurs de fluctuations quantiques. Donc on va peut-être passer à la suite. Malheureusement, je crois que Jonathan nous a quittés parce qu'en fait, il avait une très mauvaise qualité audio. Donc c'est bien dommage. Mais tant pis, on va essayer de faire. Il aurait apporté des choses très intéressantes sur les points qui suivent. J'en suis désolé. Bref, alors on avance. Donc, il existe encore quelques scénarios potentiellement difficiles qui sont regroupés autour de deux nœuds temporels. Donc là, on parle des lignes de temps qui sont devant nous par rapport à notre situation actuelle. Le premier se produit au moment du carré exact Eris-Pluton le 9 octobre à 4h UTC, ce qui correspond concrètement au moment le plus difficile pour les forces de la lumière pendant toute cette période. Pour ceux qui se sentent guidés, une méditation fleur de vie à ce moment-là serait très bénéfique. Alors, de quoi on parle là? On parle d'astrologie, effectivement. Enfin, on parle d'astronomie et on parle aussi d'astrologie puisqu'on parle du carré Eris-Pluton. Donc, un Eris, c'est une planète naine qui est au-delà de Pluton, je crois, dont on avait pas mal parlé, qui a un potentiel justement de transformation assez puissant, mais justement, de ce potentiel de transformation, il peut aller dans un sens comme dans un autre, suivant justement, je dirais, les flux d'énergie à ce moment-là. C'est pour ça que on est face à un nœud temporel un petit peu particulier et on est face à un croisement des lignes temporelles. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'agir pour faire en sorte que ce croisement nous soit favorable. Donc, on vous parlait tout à l'heure, en fait, du groupe Telegram qui s'appelle Méditons ensemble pour la libération planétaire, qui organise quotidiennement des méditations. Donc, c'est des opérations sniper, en fait, de méditation sur des objectifs particuliers. Donc, j'imagine, Sandrine, tu vas nous dire, mais j'imagine que vous allez organiser une méditation le 9 octobre à 4h temps universel, c'est-à-dire 6h heure de Paris, pour ce carré Eris-Pluton et faire une méditation fleur de vie. J'imagine.
Tout à fait. Effectivement. Oui, nous allons faire la fleur de vie, justement, à 6h du matin, cette date, pour essayer de tourner la lumière en notre faveur et c'est que la ligne de temps positive.
Voilà, donc on compte sur vous. Rejoignez le groupe. C'est pas une secte. N'ayez pas peur. On fait juste des méditations synchronisées. C'est juste ça. Et puis focaliser aussi sur un protocole en général. Donc là, ce sera la fleur de vie. D'autres fois, c'est la colonne bouddhique. Donc ne vous inquiétez pas. Vous ne rentrez pas dans une secte. Par contre, vous aidez à canaliser la lumière. Vous ne donnez pas votre lumière. Vous ne donnez pas votre lumière. Votre lumière vous appartient, vous ne la donnez à personne. Vous aidez juste à canaliser votre lumière parce que on parlait tout à l'heure de résonateurs, de fluctuations quantiques. Vous savez, on parle de bidules et de machins ou de chambres à tachyons, des super objets qui permettent d'évoluer. Mais n'oubliez pas que l'objet le plus magnifique à la surface de la planète pour faire évoluer la planète vers la lumière et vers l'ascension, c'est l'homme, c'est vous, c'est vous. C'est vous qui avez le plus de puissance, ne l'oubliez pas. Et donc, c'est pour ça que justement, on a besoin de vous pour ces méditations ciblées. Donc voilà, je ne sais pas si vous... Vas-y.
Merci beaucoup et merci d'ailleurs à tous les participants.
Ah, ça coupe. Sandrine, on t'a perdu.
Ah, ça y est. Donc, merci à tous les méditants justement qui se sont impliqués. Qui ont fait un travail phénoménal. On s'est tous plus ou moins partagé les tâches, en plus, entre nous. On s'est consultés, on a préparé des plans, on a préparé plein de choses, on a préparé aussi toute une liste de colonnes que l'on avait faites, ce qui nous permet, nous, ensuite, de pouvoir recalibrer les cibles ensuite, par la suite.
Super. Et moi, ça me donne l'opportunité donc, de reparler de ce marathon spirituel donc, que nous organisons le samedi 16 octobre, donc à 20h30 heure de Paris, et où nous allons utiliser justement tous les outils à notre disposition pour faire grandir en nous la lumière et à la surface de la planète. Et justement, la méditation fleur de vie sera un de ces outils utilisés. On va repartir en fait de la trame justement de dissolution des implants primaires, donc qui sont des implants immatériels, je le répète. C'est des séances qui ont lieu toutes les semaines. Cette semaine, donc mercredi soir, ce sera en anglais, et mercredi prochain en français, donc alternativement anglais-français, et on utilise cette trame justement de dissolution des implants que l'on étoffe en rajoutant tout un tas d'outils, des outils peut-être que vous ne connaissez pas encore, pour faire justement organiser ce grand marathon spirituel le samedi 16 octobre. Donc voilà, si vous souhaitez avoir des détails, allez voir sur le groupe Telegram Victoria Luminis ou sur le site web Révolution vibratoire pour avoir plus d'informations. Donc voilà pour la publicité. Donc je continue, on continue de balayer cette mise à jour. Donc il y a un deuxième nœud de ligne temporelle et il se produira donc au moment du carré héliocentrique exact Saturne-Uranus le 19 octobre à 15h13 temps universel, avec la conjonction exacte Algira-Rigel et le quinconce exact Chariclo-Chaos se produisant dans les 24 heures qui suivent. Alors, c'est des objets célestes. Là, on parle d'objets célestes. Hein, l'astrologie a évolué avec les objets célestes qui ont été découverts avec l'évolution de la science. Hein. Algira était un objet céleste dont on ne parlait pas, je dirais, quand on faisait de l'astrologie au Moyen-Âge, puisque Algira n'était pas connu, Chariclo non plus, Chaos, je ne pense pas non plus. Mais quoi qu'il en soit, l'astrologie a évolué. Et aujourd'hui, donc, je rappelle que le contacté Cobra, en fait, est un astrologue à la base et il utilise ses compétences justement pour nous guider d'une certaine façon et nous informer de ces moments clés justement de la ligne temporelle planétaire. Donc voilà, le 19 octobre est un autre moment clé à cause de cette conjonction exacte Algira-Rigel. Donc une conjonction, c'est quoi? C'est en fait, c'est vue du Soleil, Algira sera parfaitement aligné avec l'étoile Rigel. Rigel étant l'un des foyers justement des forces sombres pendant des millions d'années, et tous les êtres négatifs de Rigel sont venus se réfugier sur la planète Terre lors de l'invasion Archonte de 1996. Donc encore une fois, j'ai conscience de tout ce que ça peut, tout ce qu'on vous dit là peut sembler complètement barré et fou. Mais voilà, en tout cas, c'est notre grille de lecture justement de la compréhension de la situation planétaire. Et donc, cette conjonction Algira-Rigel est particulièrement intéressante justement pour résoudre une partie de l'anomalie. Enfin, non, pas une partie. Là, il parle de résolution finale concernant Rigel. Donc concrètement, cela signifie le point de tension maximal dans tout le système solaire. Donc, tension énergétique. On parle de tension sur les plans subtils, hein, la musique des sphères dont parlait Pythagore. Donc, tension énergétique dans tout le système solaire qui conduira au début de la résolution finale de l'obscurité rigélienne qui a envahi ce système solaire en 1996. Cindy, peut-être que tu aurais des précisions à donner par rapport à ça?
Bah justement, dans le chat du Révolution Vibratoire, j'ai mis le lien de l'article PFC qui en parle, le grand oubli de l'année 1996. Donc...
D'accord, merci
beaucoup.
Ok, merci beaucoup. J'ai pas forcément le...
T'es coupé, Hervé, de temps en temps.
Oui,
il y a des soucis. Ça commence. On a des personnes qui nous quittent à cause de problèmes de connexion de Telegram.
Ouais, j'en suis désolé. Moi-même, j'ai mon micro qui se coupe de façon inattendue, donc c'est assez curieux. Donc, ce que j'allais dire, oui, j'ai pas forcément le temps de regarder en même temps, effectivement, le chat qui déroule dans le groupe Révolution Vibratoire. Donc, si jamais il y a n'hésite pas à m'interrompre si jamais il y a des remarques importantes ou des questions. Voilà. Mais je suis vraiment désolé pour les personnes qui nous entendent mal ou, normalement, Telegram fonctionne plutôt bien. Après, peut-être qu'avec une connexion Wi-Fi, ça peut poser des problèmes. Bon, j'en suis désolé. Donc, voilà pour le deuxième nœud de ligne temporelle. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que nous organisons ce marathon spirituel. Il sera situé situé entre le premier nœud, donc le carré exact Eris-Pluton le 9 octobre, et le deuxième nœud, donc la conjonction exacte Algira-Rigel, le 19 octobre. Donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est important de le faire et c'est important d'y participer parce que, on a tous un rôle à jouer pour la résolution finale de cette obscurité rigélienne et globale, puisque comme l'a expliqué tout à l'heure Cindy, hein, c'est vraiment une résolution au niveau galactique et au niveau de l'univers. Je sais, c'est barré, mais voilà, c'est notre grille de lecture. Alors, je continue. Une désagréable surprise. Alors c'est la chose qu'on a retenue nous à la première lecture, la chose principale qu'on a retenue, cette désagréable surprise. En septembre a été l'émergence d'un reste non détecté de la flotte de Chimère à partir des trous noirs de la ceinture de Kuiper. Quelques vaisseaux ayant même été capables de prendre sporadiquement des positions dans le système solaire interne et de reprendre quelques positions dans le sous-sol caverneux de la planète Terre. Ce contretemps devrait être réglé dans quelques mois, les forces de la lumière ayant toujours le dessus partout dans le système solaire, sauf à la surface de cette planète. Alors bon, ça amène plein de commentaires. Bon, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Malheureusement, Jonathan est parti, mais justement, je vois que Cindy a mis un lien vers le site Exoportail qui concerne le groupe Chimera, donc qui est bien décrit, justement, bien expliqué sur le site Exoportail. Et encore une fois, désolé pour ceux qui doivent nous quitter. Disons que voilà, le fait de découvrir qu'il existe encore dans le système solaire des portions de flotte chimère, c'est assez décevant parce que on vivait avec une grille de lecture qui était celle que nous avait transmis Cobra jusqu'à présent à travers donc les Pléiadiens, qui était de savoir que les galactiques positifs avaient pris le contrôle de l'intégralité du système solaire à l'exception de la planète Terre, et y compris l'espace sublunaire. Donc le fait de découvrir effectivement des fragments de flotte non détectés, de galactiques négatifs, constitue en soi une désagréable surprise, comme il l'indique. Et d'autant plus donc qu'ils ont réussi à reprendre quelques positions dans le sous-sol de la Terre. Donc encore une fois, dans notre grille de lecture, la Terre, il y a plein de choses sous la Terre. Hein. La Terre n'est pas juste un noyau ferreux du magma, etc. Il y a énormément de choses, il y a énormément de galeries et de mondes souterrains, et notamment la Kabbale y a pris énormément de positions, différentes factions d'ailleurs de la Kabbale, la chimère étant justement ces entités qui sont au sommet de la hiérarchie négative, qui mettent la planète sous contrôle. Donc voilà, donc c'était une information un peu négative parce que ça nous, on en était à espérer justement ce qu'on appelle l'événement avec un grand E, c'est-à-dire la libération planétaire. On en était à l'espérer justement avant la fin de l'année, en tout cas assez rapidement. Et là, quand on parle de contretemps qui devrait être réglé dans quelques mois, ceci laisse mal augurer d'une libération planétaire rapide. Voilà. En tout cas, il faudra attendre encore quelques mois. Après tout, quelques mois à l'échelle de l'immensité de l'univers et de et de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, finalement, c'est bien peu. Je vous invite à les autres co-animateurs, je vous invite à intervenir par rapport à ce point. Comment vous avez perçu justement cette information sur la flotte chimère?
Eh bien, pour tout dire, nous l'avions vraiment pris très mal. Effectivement. Ça a été pour le coup un marteau sur la tête, mais nous sommes vite, on va dire, reprises au niveau de la déception et remise à cheval, comme on dit, pour contrecarrer le tout, sur les plans subtils. Voilà, tout simplement.
Il faut dire voilà. Aussi que pendant quelques colonnes bouddhiques ces derniers temps, on voyait bien des flottes noires à l'extérieur de la Terre, et on se demandait ce qu'ils fichaient là, puisque nous, on pensait qu'il n'y en avait plus. Et on se posait la question pourquoi ils étaient là, parce qu'on les voyait. Et là, depuis aujourd'hui, alors je sais bien qu'il y a toujours un écart entre ce qu'on voit nous et au moment où ça arrive réellement, mais on commence à s'apercevoir qu'ils nous disent « Ok, on en a marre, on se barre ». Mais le temps que ça arrive, ça, je ne sais pas, dans la réalité.
Ok, ben merci. N'oubliez pas, voilà, remettez votre micro en muet, parce que du coup, ça crée des bruits parasites pour ceux qui nous écoutent. Quand les micros sont pas fermés. Merci beaucoup pour vos commentaires. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Donc la ceinture de Kuiper, hein, vous savez, bon, cette ceinture en fait qui est très loin du Soleil, mais qui fait partie encore de notre système solaire. Et se cacher dans un trou noir, j'avoue que je ne savais pas que c'était possible, même si on pouvait imaginer que ce le soit. On nous avait déjà parlé de mécanismes de superposition quantique qui permet justement de cacher des objets ou des êtres dans des états quantiques spécifiques qui les rendent invisibles sur le plan matériel ou même voire même sur des plans plus subtils. Donc pourquoi pas effectivement une fraction de cette flotte cachée dans un trou noir. Hein, je pense qu'on est capable de se l'imaginer, même si ça entraînait pas mal de déceptions. Mais effectivement, quoi qu'il en soit, on continue. On continue notre action puisqu'on est persuadé que tout ce que l'on fait sert et accompagne l'action donc des galactiques positifs. Alors, Il y a eu récemment beaucoup de discussions sur l'état de libération de ces systèmes solaires dans certains cercles. Donc là, il nous donne un lien. En fait, vous allez voir que ça rejoint justement des discussions qu'on a eues sur Radio Pléiade dans les épisodes précédents. Donc, pourquoi ? Parce que, en réalité, donc, il nous donne un lien qui nous parle de Corey Good. Vous avez sans doute entendu parler de Corey Good, qui nous parle d'Elena Danan. On l'a évoqué à plusieurs reprises justement sur cette émission. Et qui nous parle aussi de Megan Rose. Et en fait, alors, Cobra ne parle pas de Swaru, hein, la pléiadienne canalisée par Esprit, enfin, et relayée par Esprit Libre, la chaîne Esprit Libre, ou ne parle pas non plus de la médiatrice interstellaire, mais on pourrait faire encore une extrapolation. Il y a actuellement une profusion incroyable de sources, d'informations, justement, donc qui proviendrait donc de Galactique Positif, donc Corey Good, Elena Danahan, Megan Rose, Swaru, médiatrice interstellaire, etc. Et si vous prêtez attention à tout cela, je ne sais pas lesquels vous écoutez, je ne sais pas lesquels vous intéressent, mais et puis Cobra lui-même, bien évidemment. Mais si vous prêtez attention à tout cela, vous vous rendez compte que il y a beaucoup de contradictions. Donc la question qu'on peut se poser, c'est où est la vérité? On pourrait aussi se dire que finalement tout ça, c'est un narratif un peu New Age pour nous faire gamberger, parce que justement on s'intéresse à la vie, on s'intéresse aux astres, on s'intéresse à notre connexion stellaire, et finalement on se laisse embarquer dans tout un tas de narratifs. Alors donc après vous pouvez aussi essayer de faire le tri dans tout ça. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs aujourd'hui je suis et je relaye Cobra, parce que je considère que c'est la source d'information la plus fiable, et ça a été démontré à mes yeux à de nombreuses reprises. Donc, en fait, on a parlé d'Elena Danahan, donc notamment dans l'émission avec Nadine Touzeau, où on a évoqué le fait que, enfin, je doutais pas du fait qu'elle ait une connexion. Par contre, je parlais de connexion parasitée. Nadine Touzeau parlait de surenchère par rapport justement aux informations qu'elle pouvait avoir. Je vous avais parlé de Michael Sala qui vend des livres justement sur l'exopolitique et sur les programmes spatiaux secrets, qui forcément a aussi un intérêt à mettre en avant des personnes comme ça. Donc, que dit Cobra à propos de tout cela? Il nous dit la chose suivante. Il est bon de savoir que toutes les sources d'informations à la surface de la planète ont été implantées et ou placés sous contrôle mental depuis 1996, et ne peuvent donc pas avoir une vision complète de la situation. Plus ces sources ont travaillé sur elles-mêmes et effacé leur programmation passée, plus leurs informations sont fiables. Beaucoup de ces sources d'informations sont des personnes bien intentionnées. Et au lieu de se disputer pour savoir qui a raison et qui a tort, nous pouvons tous ensemble créer une image plus claire de ce qui se passe réellement. Alors là, c'est un petit peu drôle, parce que donc c'est très bien ce qu'il dit. J'adhère, très bien, très très bien. Ceci étant, c'est un petit peu drôle, parce que le lien qu'il met justement pour illustrer ses propos, c'est un lien qui va parler justement de Corey Good et de Cobra, et qui met en avant les informations de Cobra. Donc Cobra est en train de vous dire, construisons une image, créons une image plus claire de ce qui se passe réellement, et allez voir ce lien-là, c'est pas le mien, mais il parle de Cobra et c'est très très bien. Donc ça m'a fait un petit peu rire. Et alors, ce qu'il rajoute, c'est que donc les informations provenant de nombreuses factions hors planète, parce que nous sommes convaincus effectivement qu'il existe de nombreuses factions hors planète, notamment les programmes spatiaux secrets. Donc, ces nombreuses factions qui contactent les gens de la surface sont très compartimentées et très biaisées. Les factions donc SSP, voulant dire Secret Space Programs, donc les programmes spatiaux secrets, ont généralement un penchant pessimiste, étant soumise au stress quotidien de traiter avec l'Empire Draco, ok, et les races de la Confédération Galactique, donc positives, ont généralement un penchant optimiste, étant toujours connectées à la source et ne comprenant pas totalement à quel point la vie sur cette planète peut être cruelle. Alors moi, je vous ai rajouté un petit lien sur un petit cours sur la divulgation des programmes spatiaux secrets, donc voilà. Je pense que c'est intéressant, vraiment intéressant de s'intéresser au programme spatiaux secrets. Il y a beaucoup d'informations sur le sujet. Ça a commencé avec les nazis. On a vraiment aujourd'hui, on peut vouloir nier tout cela, mais on a quand même énormément d'informations. Michael Sala a écrit des livres, plusieurs livres sur le sujet qui ont été traduits en français. Donc, si ça vous intéresse, une bonne partie, enfin, une certaine partie des informations sont confirmées, notamment par Cobra, d'autres sont un petit peu plus du domaine de la spéculation. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses intéressantes à prendre de ce côté-là. Alors, je parle beaucoup. Est-ce que vous souhaitez compléter, intervenir, poser une question? Justement, je ne veux pas monopoliser la parole.
Il y en a qui pourraient se demander, mais c'est quoi cette confédération galactique? Et dans quel plan elle intervient, cette confédération? Alors justement, j'ai fait un petit condensé de ce que nous dit Cobra sur la confédération galactique. Donc, le mouvement de la résistance est activement soutenu par des civilisations extraterrestres bienveillantes de diverses races et de nombreux systèmes stellaires, parmi lesquels principalement les Pléiadiens, les Syriens, les Arcturiens, les Andromédiens positifs sont les plus éminents. Ils sont organisés au sein de la Confédération Galactique, qui est une union confédérale informelle de civilisations positives dirigées par des maîtres ascensionnés. Ensuite, il y a la race centrale, qui est la plus ancienne race d'êtres intelligents de la Voie lactée. Ils vivent dans la partie centrale de la Voie lactée, comme leur nom l'indique, et ils sont la plus développée de toutes les races de notre galaxie. La race centrale était en contact avec la civilisation de l'Atlantide sur Terre il y a des centaines de milliers d'années, et un groupe spécifique est appelé le commandement Ashtar. C'est une section de la Confédération Galactique spécifiquement dédiée à la libération de la planète Terre des forces sombres. Alors, il existe donc une vaste flotte cosmique présente à l'intérieur de notre système solaire, qui est organisée principalement en trois cercles. Donc, on a le cercle extérieur, qui s'étend entre Jupiter et l'héliopause, donc la ceinture de Kuiper. Ce cercle appartient au commandement de Jupiter. Sa mission est de transmettre les énergies du Soleil central galactique au système solaire. Il en réduit l'intensité. Donc, le commandement Jupiter s'occupe également des membres des forces obscures capturés et placés sur Ganymède, la lune de Jupiter, qui sont ensuite emmenés vers le Soleil central galactique. Ensuite, on a le cercle du milieu, qui représente le commandement Ashtar et se trouve entre Jupiter et la ceinture d'astéroïdes. Et enfin, on a le cercle intérieur, qui représente le commandement Atlantis, qui est situé dans l'espace sublunaire, autour de la Lune et sur la Lune. Sa fonction n'est pas encore divulguée. Et le centre de commandement principal pour la libération planétaire est situé sur la face visible de la Lune. Donc la Lune est libérée maintenant, c'est un développement récent. Donc tous les Dracos et les reptiliens y ont été enlevés. Et le centre de commandement principal est situé dans le cratère Tycho. Voilà.
Ok, ben merci beaucoup Cindy pour ces informations. Alors bien sûr, hein, c'est voilà, on vous les donne, vous en faites ce que vous voulez. On ne vous dit pas que c'est la vérité absolue. On ne va pas chercher à comprendre parmi tout toutes ces sources discordantes forcément qui a le plus raison. Ceci étant, il y a un point qui mérite d'être mentionné et sur lequel on doit s'arrêter, donc qui est le point suivant d'ailleurs de cette mise à jour. Donc je cite. En l'occurrence, il me faut seulement ajouter que la directive première, donc la pseudo-loi de non-intervention, on parle de beaucoup de gens justement parlent de loi de non-intervention par rapport à la planète Terre. Cette directive première n'existe pas et n'a jamais fait partie de la politique de la Confédération Galactique, et qu'il s'agit en fait d'un programme mental des archontes. Au lieu de cela, la Confédération Galactique respecte le Codex Galactique. Alors. Donc nous, on a fait une émission sur le Codex Galactique. Je vous renvoie donc à la chaîne Hervé Gaïa, une émission le 28 novembre 2020. D'ailleurs, je l'ai mise dans l'article. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'est ce fameux Codex Galactique, et effectivement, nous, dans notre grille de lecture planétaire, nous considérons que la planète Terre n'est pas une planète école, mais bien une planète prison, et que s'il n'y a pas d'intervention des Galactiques positifs, c'est parce que nous sommes des otages. Il y a des bombes toplettes que nous évoquions tout à l'heure qui peuvent exploser à chaque instant pour détruire chacun d'entre nous et la planète tout entière. Mais il y a un programme, et c'est encore une fois, c'est notre grille de lecture, un programme archonte, une programmation mentale qui nous laisse entendre qu'il y a une directive de non-intervention qui laisse les peuples évoluer au rythme de leur évolution. Donc même s'ils traversent des périodes négatives et houleuses, il faut les laisser évoluer à leur rythme. Et nous ne croyons absolument pas à cela. Et nous croyons au contraire que cette croyance est très, très néfaste. C'est une croyance New Age qui fait que justement, ça nous empêche quelque part d'appeler de l'aide. Ça nous empêche aussi de voir la profondeur du mal. Parce que lorsqu'on a conscience de la profondeur du mal à la surface de cette planète, je pense qu'il est difficile de croire à cette directive première de non-intervention. Et alors, je ferai une dernière remarque parce que justement, le Radio Pléiade de la semaine dernière, là, on l'a fait entre nous et on m'a interrogé en fait sur la chaîne Esprit Libre. Qui communique justement donc les informations de Svarou, donc cette Pléiadienne. Donc, je ne connaissais pas cette chaîne avant, donc j'ai été la voir et j'ai écouté un petit peu. Et en fait, je suis tombé sur un certain nombre d'informations, je dirais, qui étaient en contradiction flagrante avec notre grille de lecture. Et puis, bon, finalement, j'ai interrompu le visionnage de cette vidéo. Mais parmi justement ces informations qui étaient en contradiction avec notre grille de lecture, il y a cette fameuse directive première, donc cette loi de non-intervention. Et alors, moi, les personnes qui tiennent cette chaîne sont très, très sympathiques. Hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant. Hein, voilà, on ne va pas se disputer pour savoir qui a raison et qui a tort. Ceci étant, nous, dans notre grille de lecture, effectivement, on considère que la profondeur du mal, la puissance du mal à la surface de cette planète n'est absolument pas justifiable. Et nous sommes convaincus que si des forces positives avaient la possibilité d'intervenir, elles le feraient. Et quand on parle de profondeur du mal, ça va jusqu'à justement suppression d'une partie de notre libre arbitre à travers les implants sur lesquels nous travaillons activement maintenant depuis le début de l'année. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et si donc les personnes qui animent la chaîne Esprit Libre souhaitent venir faire un débat avec nous, elles sont les bienvenues. Ça peut justement faire avancer le schmilblick que de confronter des points de vue apparemment contradictoires. Sur ces différents aspects de compréhension de l'univers et de notre planète. Est-ce que vous souhaitez compléter? Encore une fois, je monopolise. Je suis sûr, Gwen, tu avais fait cette émission là sur le Codex Galactique avec nous.
Oui, je l'avais fait, mais c'est vrai que ça résume un peu ce que tu viens de dire. Si les personnes veulent approfondir, il y a ce lien qu'on avait fait. Mais sinon, pour faire une analogie assez simple, une comparaison assez simple, on pourrait comparer le Codex Galactique, donc du coup qui régit l'univers, avec chez nous sur le plan 3D, on va dire avec les droits de l'homme tout simplement. Donc ça fait un peu une référence comme ça avec laquelle on peut comparer, bon, qui est bien plus poussée, sachant que le Codex Galactique que l'on a est adapté également à notre conscience 3D. Et je pense qu'il est beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas, voilà, on a juste une partie d'une compréhension 3D de ce Codex Galactique. Enfin voilà, en tout cas, on peut en faire une comparaison assez simpliste d'avec les droits de l'homme, tout simplement, que tout le monde connaît, quoi. Donc, voilà, le Codex Galactique, c'est un peu ça par rapport à l'univers, quoi.
Ouais, merci beaucoup pour ces compléments. Et alors, je découvre au hasard, justement, une personne qui pose la question, j'ai entendu plusieurs fois l'information que la Lune serait une planète artificielle. Vous en pensez quoi, vous? Ben, nous, on en pense que c'est un astre, un vrai astre, mais qui a effectivement été, il y a aussi beaucoup de galeries, il y a beaucoup de bases sur la Lune, et ça aussi, on a beaucoup d'observations de ce côté-là. Il y a vraiment, enfin, il y a suffisamment de preuves qui prouvent qu'il y a beaucoup de choses, il se passe vraiment beaucoup de choses sur la Lune. Mais non, ce n'est pas une planète artificielle, comme le dit la médiatrice interstellaire. D'ailleurs, elle parle de sphère de Dyson, qui est un faux concept en lien avec la Lune, puisque la sphère de Dyson n'est pas du tout ça. Mais voilà. Donc, alors je continue. On continue à balayer. Donc, la Confédération Galactique augmentant sa présence autour de la Terre, les militaires négatifs renforcent leur défense de la Terre en quarantaine avec la Space Fence. Donc, on est toujours sur cette notion de Terre en quarantaine. Nous sommes tous des prisonniers sur cette planète. Et donc, ils renforcent les militaires négatifs, donc ils coopèrent avec les galactiques négatifs, renforcent leur défense de la Terre avec ce projet Space Fence. Alors, si vous allez voir le lien qui nous a été communiqué justement par Cobra, donc vous verrez que ce projet est tout à fait officiel. Mais alors, ce projet, il a un objectif qui peut sembler très noble a priori, c'est qu'en réalité, l'espace autour de la planète Terre est une vraie poubelle. Il existe des milliers et des milliers d'objets suite à ce qu'on a fait, en fait, toutes les missions spatiales, tous les satellites qui se sont percutés, qui sont partis en pièces et qui, voilà, il y a des fragments de tout un tas de choses, une vraie poubelle tourne autour de la planète. Et en fait, du coup, leur alibi par rapport à ce Space Fence, c'est le débris. Voilà, le débris, c'est l'alibi. Mais en réalité, d'après Cobra, cela cache quelque chose de beaucoup plus profond, qui est effectivement de renforcer la surveillance pour éviter toute pénétration de forces galactiques positives à l'intérieur de l'espace, de la Terre, et notamment la proximité directe de la Terre. Donc voilà le commentaire que je pouvais faire par rapport à ça, et je pense être assez en accord avec cette grille de lecture, encore une fois. Et comme on vous le disait tout à l'heure, tout le système solaire normalement est sous le contrôle des positifs. Alors ça a été long, hein, ça s'est échelonné sur des années et des années depuis 96. En 96, on avait vécu un petit peu la catastrophe avec le rapatriement de toutes les forces sombres sur la planète Terre qui étaient devenues leur bastion, et il y avait beaucoup de bases encore dans le système solaire. Mais depuis, la Confédération Galactique, donc les positifs, ont repris ces positions, et aujourd'hui les négatifs se concentrent essentiellement donc sur Terre, sous Terre et en proximité directe de la Terre. Donc voilà, et d'où l'intérêt de cette barrière spatiale dite Space Fence.
N'empêche que quand on regarde aussi un peu ça, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, il nous dit quand même que voilà, ils augmentent la présence autour de la Terre. Enfin, moi, je le vois comme une bonne nouvelle, cette phrase-là, quoi. Ça montre que les choses bougent et qu'ils arrivent vraiment à gagner de plus en plus d'espace et qui se rapproche de plus en plus de la surface de la planète. Et c'est ce qu'on recherche en fait dans tout ça, quoi.
Exactement. Et lorsqu'on n'aura plus ces fichues bombes, on pourra envisager le premier contact. Mais sachez-le, les contacts sont possibles sur les plans subtils. Bon, je sais que ça va un peu dresser la tête sur les dresser les cheveux sur la tête des ufologues. Mais les contacts avec les galactiques positifs sont possibles sur les plans subtils, sur le plan éthérique ou sur le plan astral, parce qu'il y a des zones, justement, par endroit, il y a des zones démilitarisées. On peut utiliser aussi éventuellement les trous de verre qui sont proposés par les chambres à tachyons pour faire quelques rencontres intéressantes. Mais en tout cas, sur le plan physique, c'est un petit peu compliqué et ça peut générer des escalades violentes assez rapides. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on n'a aucune preuve. Je discutais cet après-midi avec un ufologue. Il me disait qu'on n'avait effectivement aucune preuve de contact physique. On n'a pas récupéré un corps de reptilien. On n'a pas effectivement. Mais pourquoi il n'y a aucune preuve? Enfin, dans ma grille de lecture, et pour cause, parce que si on avait des preuves, ça poserait un gros problème justement de compréhension de notre réalité. Et donc, il faut effacer toutes les preuves aussi vite que possible. Mais ça, les ufologues en ont conscience, que nous effaçons, que les preuves sont effacées. Donc voilà, fin de la parenthèse. Alors on continue, on passe sur un autre registre. On va maintenant parler des dragons, les dragons bleus. Alors de quoi s'agit-il? Donc il y a une illustration là où on voit un dragon rouge, un dragon bleu. Alors souvent quand on parle de dragon, on pense reptile, on pense à des choses négatives, un truc qui crache du feu, bon, ça n'a pas l'air bien sympathique. Mais en réalité, les dragons peuvent être justement des êtres positifs. Quand on parle de reptiliens, d'ailleurs, en général, on ne fait pas référence aux dragons. Quand on parle de reptiliens, on parle d'entités draco, entités reptiliennes, celles qui sont justement dans la pyramide, dans la hiérarchie des contrôleurs de cette planète. Vas-y, Cindy, tu voulais prendre la parole.
Oui, parce que j'ai préparé un petit topo, un petit résumé sur les familles de dragons, qui est basé sur l'article publié sur Exoportail par notre ami Jonathan. Donc, il s'intitule « Les familles des dragons asiatiques et leur lutte contre la cabale ». Donc, on a la Société du Dragon Blanc. Donc, la Société du Dragon Blanc est un groupe qui représente les intérêts de certaines anciennes lignées royales chinoises, soutenues par de nombreux groupes d'arts martiaux dans le monde entier. Leur principale motivation est de faire tomber la cabale, mais leurs motifs ne sont peut-être pas tout à fait purs ou en voie d'amélioration, car ils considèrent que leur rôle dans la nouvelle société après l'événement n'est pas assez dominant et contrôlant. Ils ont également un intérêt financier important dans les fonds qui seront libérés après la dissolution de la cabale. Donc, par ailleurs, les membres dirigeants de la Société du Dragon Blanc ont appris leur leçon après que leurs prédécesseurs aient été dupés il y a plusieurs décennies lorsqu'ils ont remis une grande partie de leur or à des agents jésuites contre des morceaux de papier sans valeur, donc obligation du gouvernement américain. Les dragons blancs sont beaucoup plus prudents maintenant, d'autant plus que les jésuites tentent de les infiltrer par l'intermédiaire de Tewu, l'agence de renseignement chinoise. Donc la société du dragon blanc s'est davantage concentrée sur l'opposition politique, militaire et financière à la cabale. Ensuite, on a les dragons bleus, qui sont issus de groupes taoïstes secrets liés au réseau Agartha. Avec l'ordre secret de Pythagore, ils ont illuminé l'étincelle de la Renaissance en Italie. Les bleus, certes, pour les bleus, certains d'entre eux sont aussi des gardiens de portail. Ensuite, on a les familles du dragon rouge. Donc, les dragons rouges sont issus des forces militaires de la dynastie Ming. Au début du 19e siècle, les Rothschild ont pris le contrôle de la Chine par le biais des guerres de l'opium. Les familles chinoises du dragon rouge ont été contraintes de garder un profil bas, mais déguisées en société secrète des huit trigrammes. Ils ont quand même réussi plus tard à organiser la rébellion des Boxers, une tentative de chasser les jésuites et les Rothschild de Chine. Donc ici, quelques explications sont nécessaires. Donc, ce qu'on appelle les triades ne travaillent pas pour les dragons, mais surtout pour la cabale. Cependant, de nombreux agents des dragons ont infiltré les triades et récemment, certaines ou même la plupart des triades peuvent ou non aider secrètement au renversement de la cabale. Donc Taïwan est la base d'opération de nombreuses familles des dragons positifs. Ils ont été forcés de quitter la Chine continentale après la révolution communiste. Les familles du dragon rouge ont pour but de vaincre leurs ennemis jurés, les jésuites et les Rothschild. Ils sont de vaillants protecteurs et gardiens de la justice. Et selon Benjamin Fulford, depuis 1949, leur influence n'a cessé de croître dans toute la Chine et dans le reste du monde. Ils ont des membres au plus haut niveau du gouvernement chinois, mais ils sont par nature anti-nouvel ordre mondial et ne sont pas une organisation officielle du gouvernement chinois. Donc les Rouges sont maintenant actifs à Taïwan et dans une certaine mesure au Japon. Et Taïwan est donc l'un des sièges principaux des familles dragons. Malheureusement, ces familles ne sont pas encore totalement unies. Il y a encore de l'infiltration des forces obscures et aussi un grand besoin de conseils spirituels. De plus, Taïwan aura un rôle très important dans l'événement qui ne peut pas encore être divulgué. À la surface de la planète, l'armée positive et les dragons rouges et bleus mènent des opérations en coulisses pour préparer l'événement. Et pour finir, il existe d'autres familles de dragons comme les jaunes qui sont exclusivement dédiées à la politique et à l'infiltration de la cabale. Et à propos des familles de dragons, on a lancé un appel à la méditation pour eux sur le site French Wheel of Mass Meditation. Je vais mettre le lien dans le Telegram Révolution Vibratoire, dans le chat. Voilà.
Eh ben merci Cindy, heureusement que tu es là, hein, parce que voilà, ça me permet de me reposer pendant ce temps, c'est super. Et puis en plus, c'est riche en informations. Alors voilà, donc dragon bleu, dragon rouge, dragon bleu Aldébaran, dragon rouge Antares. Donc les dragons bleus sont assez efficaces pour influencer les factions positives chinoises à commencer à planifier la construction de vaisseaux spatiaux de plusieurs kilomètres de long. Alors, je pense que dans les programmes spatiaux secrets, on trouve probablement déjà de tels vaisseaux spatiaux. Quoi qu'il en soit, là, on parle d'informations mainstream. C'est ça qui est intéressant. Et qui nous donne des liens, justement, Cobra, là, des liens qui viennent de space.com. Donc, c'est des informations qui sont, alors même si c'est des plans, on va dire des plans à plusieurs années, pour construire des vaisseaux massifs, néanmoins, ce sont des projets qui sont visibles pour tout un chacun. Là, on parle pas de, c'est pas de la science-fiction, enfin, ça pourrait, mais en tout cas, ce sont des projets qui ont l'air tout à fait concrets du côté des Chinois. Alors, Je continue. Donc, un certain contact qui comportait des aspects physiques et non physiques a été établi récemment avec les dragons bleus de l'Agartha. Donc, quand on parle de contact non physique, hein, on parle de contact sur le plan éthérique ou astral, hein, typiquement, ou contact télépathique aussi. On a cette vision, hein, dans notre grille de lecture, on a constamment cette vision d'un homme multidimensionnel d'une planète multidimensionnelle, d'une guerre multidimensionnelle, et sans cette grille de lecture, on comprend rien. On comprend rien à ce qui se passe. Donc voilà. Donc des aspects physiques et non physiques de contact établis récemment avec les dragons bleus de la Lagertha. Ils ont communiqué qu'ils vivent dans un vaste réseau de bases souterraines sous la Chine continentale, reliées par des trains à très grande vitesse. Encore une fois, c'est mieux que la science-fiction. Ils pratiquent une forme avancée de taoïsme comme pratique spirituelle et sont des personnes profondément spirituelles. Ils accèdent parfois à la surface et influencent certains politiciens clés du Parti communiste chinois. Donc là, c'est un petit clin d'œil à Daniel Robin, dont on a parlé justement déjà sur cette chaîne. Voilà, Daniel Robin, sache que derrière le Parti communiste chinois, il y a des méchants et il y a des gentils. Et parmi les gentils, il y a effectivement des membres de sociétés secrètes qui tentent d'influencer ce Parti communiste pour orienter la Chine vers la lumière. Voilà, en Chine, il n'y a pas que des méchants, il y a des factions positives et il y a des factions négatives. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher une guerre entre la Chine et Taïwan, effectivement. Donc là, c'est pareil, hein, ça, c'est des contacts que vous pourriez aussi vous avoir, suivant votre connexion, suivant votre désir, suivant votre origine stellaire. C'est des connexions que vous pourriez très bien aussi découvrir avec les dragons. Et j'en dirai pas plus, mais je pense que nous avons ce potentiel justement de redécouvrir nos origines, puisque dans notre grille de lecture, encore une fois, nous venons justement les 10 travailleurs de lumière qui sont là pour saper cette matrice de l'intérieur viennent d'une multitude d'origines stellaires différentes pour pouvoir ancrer justement une multitude de vibrations et de couleurs différentes sur cette planète et favoriser cette transition. Et certains d'entre nous pourraient très bien provenir du système stellaire d'Antares ou d'Aldébaran ou de Sirius ou d'Orion ou je ne sais d'où encore. Voilà. Enfin, Orion, c'est une constellation, mais en tout cas d'une des étoiles d'Orion ou d'une des étoiles des Pléiades. Alors, s'il y a des questions, des questions, des interventions, si elles sont courtes et ciblées, vous pouvez lever la main, allez-y, n'hésitez pas. Donc, nous sommes toujours 145 personnes. Merci à vous qui nous écoutez.
On entend.
Et désolé. Ah,
on
oui.
Entend. Oui.
Joe est de retour.
Oui, les vaisseaux chinois qui sont incités à être construits. Ils sont très, très grands. Ça me semble curieux, plusieurs kilomètres, quoi. Est-ce que ça a une fonction spécifique d'évacuation de peuple, ou je ne sais pas, parce que des vaisseaux aussi grands, de soins, hein, le moment venu, parce que ce sont quand même des vaisseaux très, très grands. Hein. Bon, c'est peut-être D'accord. Une question à laquelle il n'y a pas de réponse encore.
En fait, je m'attendais à une question du type « Mais comment vont-ils faire pour envoyer dans l'espace des vaisseaux aussi grands ?» Mais en fait, toi, ta question, ce n'est pas ça. C'est à quoi sert justement de construire des vaisseaux aussi grands ?
Oui.
Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Effectivement, peut-être qu'il y a des projets d'évacuation. En fait, si on écoute encore une fois Cobra, en fait, et qu'on est dans une logique d'ascension planétaire, Je remets ton micro en mieux, hein, je m'excuse, pour éviter d'avoir les bruits parasites. On aurait potentiellement effectivement une évacuation d'une partie de la planète s'il y a des troubles climatiques importants, voire des tsunamis. Des tsunamis ont été évoqués, importants, et donc ça pourrait nécessiter effectivement l'évacuation de la planète, hein, comme dans le scénario du film de science-fiction 2012, pourquoi pas. Nous, dans notre grille de lecture, la planète Terre, en fait, va passer de l'état de plus forte densité, donc on est dans le plan physique, à un état de moindre densité, ce que beaucoup appellent la 5D, et cette transition ne va pas être sans heurts sur le plan tectonique, sur le plan climatique, et pourrait effectivement nécessiter, pourquoi pas, d'évacuer une partie de la planète. Mais bon, j'ai pas la réponse à la question. En tout cas, pour moi, on est quand même dans une logique de divulgation et on se rapproche justement des programmes spatiaux secrets qui, eux, existent réellement, qui, eux, ont déjà des gros vaisseaux existants, on en est convaincu. Donc, en fait, c'est un petit peu une façon aussi de préparer notre mental à la divulgation sur les programmes spatiaux secrets. Moi, je les vois aussi de cette façon. Alors, encore une fois, si vous avez posé des questions, allez-y. On peut introduire un petit peu plus d'interactivité à ce stade. Alors, on va continuer de balayer cette mise à jour. Alors, on change de registre. On change de registre. L'énergie de la déesse a été extrêmement négligée à la surface de la planète et doit être restaurée. C'est pour ça d'ailleurs que Cobra essaye de mettre en avant ce qu'on appelle les sororités de la rose. En fait, ils communiquent des enseignements secrets qui ont été dans des sociétés secrètes pendant des millénaires, qui a permis justement de conserver un petit peu de lumière à la surface de cette planète, malgré son esprit matriciel, malgré son aspect matriciel. Mais aujourd'hui, pour la guérison complète, il faut restaurer ce qu'on appelle l'énergie de la déesse, c'est-à-dire justement cette énergie féminine dont chacun a besoin pour se guérir et pour guérir la planète. Un certain groupe ultra secret travaille en coulisses pour essayer de restaurer le vortex de la déesse en Afghanistan, qui s'est effondré en août. Ce groupe s'appelle la confrérie Sarmoun. Alors là, c'est un petit peu curieux parce que, encore une fois, on est dans une espèce de contradiction à la mode Cobra, c'est-à-dire que on est face à une information ultra secrète et pourtant il la dévoile sur son blog au vu au su de tous, la confrérie Sarmoun ou Sarmung, donc une confrérie dont effectivement, alors j'ai été chercher un petit peu en préparation de cette émission, son existence est sujette à caution. C'est-à-dire que certains se sont exprimés sur son existence, mais il y a beaucoup de mystères, ça manque de preuves et de concrets autour de cette confrérie Sarmoun, mais c'est une confrérie qui est et qui serait en fait d'une confession soufiste. C'est-à-dire le soufisme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'aspect ésotérique en fait de la religion musulmane. Donc en fait, chaque religion a ses aspects exotériques, donc ouverts au grand public, et ses aspects ésotériques. Et l'aspect ésotérique de la religion musulmane, donc c'est le soufisme, et cette confrérie serait une confrérie soufiste. Et voilà. Et ben peut-être que si vous vous sentez guidé à le faire, peut-être, pourquoi pas faire. Là, je m'adresse maintenant à Florence et à Sandrine avec leur groupe de choc Méditons ensemble pour la libération planétaire. Pourquoi pas faire une méditation, pour envoyer de la lumière à cette confrérie Sarmoun pour les aider à réactiver ce vortex énergétique en Afghanistan. Pourquoi pas?
Mais c'est prévu.
Bon voilà, c'est déjà prévu. Elles ont déjà tout prévu. Et alors, une autre contradiction de Cobra. Donc il nous dit qu'il y a un vortex qui est ultra secret. Donc l'emplacement exact de ce vortex de l'ADS en Afghanistan doit être secret, mais il est situé quelque part dans la province du Nuristan. Donc il est secret, mais il nous dit où est-ce qu'il est situé à peu près. Pareil, c'est un petit peu amusant de voir ce genre d'informations. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on avait tous compris, enfin, quand on a la grille de lecture, justement, cette grille de lecture de guerre multidimensionnelle, on sait que lorsqu'il se passe quelque chose au niveau géopolitique à la surface de la planète, et c'est toujours lié à des enjeux énergétiques. Pendant des années, justement, on a beaucoup parlé de la Syrie, de la guerre en Syrie, parce que le vortex syrien était particulièrement important. Il y avait un enjeu énergétique au-delà de l'enjeu géostratégique et qui était hyper important. Aujourd'hui, avec les troubles que l'on voit en Afghanistan, on se rend compte qu'effectivement, il y a bien évidemment un enjeu énergétique en plus de l'enjeu géostratégique sur la prise de contrôle sur les terres rares par la Chine, etc. etc. Est-ce que quelqu'un souhaiterait compléter, intervenir, poser une question à ce stade? Sinon, je continue. Alors, par ailleurs, donc, le vortex du Congo, près du lac Kivu, est dans un état d'effondrement grave et un certain groupe occulte négatif lié aux forces obscures y mène de véritables chasses aux sorcières. Alors, on avait parlé dans des mises à jour de situations planétaires précédentes, justement, du Niragongo, hein, la reprise d'activité du volcan Niragongo qui était liée à des luttes. Au niveau de cette guerre justement entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre, on aurait pu espérer justement que ce vortex avait été entièrement libéré. On avait parlé aussi des otages des bases souterraines On avait eu des méditations à ce sujet. Je pense qu'on en aura encore parce qu'il semblerait que tous les otages des bases souterraines ne soient pas encore libérés. Donc, je pense qu'on aura encore des méditations pour ça. Et je pense notamment à notre marathon spirituel donc prévu le 16 octobre. Là, c'est une mauvaise nouvelle. Je pense que aussi pareil, hein, Florence, Sandrine, il faudra prévoir des méditations pour le vortex du Congo. À défaut d'avoir des méditations mondiales, on peut tenter nous-mêmes d'avoir des méditations dans nos groupes pour essayer d'aider aider ces situations.
Non, oui, on a tout prévu à fait. Jeudi, on a prévu de faire justement l'Afghanistan et le lac Kivu spécialement pour ce que Cobra a dit. De toute façon, quand Cobra parle, généralement, on adapte les méditations en fonction.
Alors, jeudi, à quelle heure? Tu peux donner les heures, tant qu'à faire, s'il est pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre?
Oui, alors normalement, on évite de dire mais à l'avance, mais en fait…
Non, j'ai rien dit.
venez jeudi. Ouais. Venez jeudi, et voilà.
En fait, on les annonce quand même le matin, sur le canal Méditons Ensemble, c'est bien ça?
En fait, on donne les horaires, mais on met jamais le contenu à l'avance, parce qu'on a eu on s'est rendu compte qu'on a eu des attaques justement quand on mettait en avance.
Et voilà, et comme on est dans une guerre multidimensionnelle, les actions de méditation ciblée sont finalement presque des actes de guerre en soi, même si je sais que ce terme déplairait à beaucoup d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, amener de la lumière sur certaines situations permet de faire reculer l'ombre. Et donc, c'est une action de guerrier de lumière. Il faut appeler un chat un chat. Donc voilà, voilà pour le vortex du Congo. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous souhaitez intervenir, on approche de la fin de cette mise à jour de situation planétaire. Donc je continue, faute de questions d'intervention, je continue. Donc on parle souvent des jésuites aussi hein, dans les mises à jour de Cobra. Donc les jésuites utilisent toujours les Chinois comme mandataires pour imposer la tyrannie médicale dans le monde entier, comme Fulford, donc Benjamin Fulford l'a signalé au sujet du premier ministre Daniel Andrews dans l'état de Victoria en Australie. Enfin, vous l'avez vu, hein, vous l'avez observé, la situation en Australie est terrible. Il y a une répression terrible qui a été mise en place justement pour imposer la vaccination, imposer les restrictions sanitaires, le passeport sanitaire, etc. Et donc, finalement, ils sont sous une influence très puissante finalement de la Chine, en tout cas des factions négatives de la Chine. Donc c'est pour ça qu'il nous parle de Chinois comme mandataires pour imposer la tyrannie médicale. C'est le modèle qu'on va essayer d'importer, que les sombres vont essayer d'importer à la surface de la planète, partout où ils peuvent. Moi, j'ai été surpris de constater sur la chaîne de France Inter encore récemment qu'un intellectuel prétendait brandir le modèle chinois avec la note sociale comme un modèle exemplaire qu'il serait intéressant d'amener en France. Donc vous voyez bien qu'il y a un agenda qui se déroule au niveau mondial. Et là, il ne s'agit pas de complotisme, il s'agit juste d'analyse de ce qui se passe, de ce qu'on peut observer justement au niveau géopolitique et dans les médias. Il y a un agenda qui consiste à nous pousser le modèle chinois, le modèle de la surveillance généralisée et de l'identité numérique. Donc voilà pour le commentaire par rapport à ça. Donc surtout, ne cédons rien par rapport à ça et essayons de faire en sorte que ce pass sanitaire qui est justement le prélude à ce passeport vaccinal et à cette identité numérique, que ce pass sanitaire s'arrête le plus vite possible. Faisons tout pour que ceci ne se fasse pas, et notamment avec l'action de notre lumière. Donc, ils utilisent les mandats de vaccination et les passeports de vaccination pour préparer la grande réinitialisation. Donc, ça, c'est un autre aspect. On ne va peut-être pas détailler là. Je ne sais pas, Cindy, tu avais peut-être préparé quelque chose sur la grande réinitialisation, ou tu veux peut-être dire quelques mots en improvisation?
Non, ce n'est pas mon domaine de compétence. Ça aurait été plutôt du domaine de compétence de Jonathan sur ce coup-là, je pense. C'est l'économie, ce n'est pas trop mon truc, en fait.
Ouais, donc sachez, pour dire les choses simplement, sachez qu'il y a deux grands resets. Il y a le grand reset, voilà. Donc, qui est promu par Schwab, par le Forum économique mondial, qui est le reset négatif, qui consiste à mettre en place un revenu universel, que vous perdiez la propriété de votre habitat, que vous deveniez tous locataires, qu'il n'y ait plus de monnaie physique, mais que de la monnaie dématérialisée, que vous ayez peut-être d'ailleurs une puce sous-cutanée qui minera des crypto-monnaies pour vous justement accorder justement ce revenu universel. Et si vous refusez la surveillance généralisée, si vous refusez la puce sous-cutanée et l'identité numérique, bah vous n'aurez pas droit à votre revenu universel et vous serez un paria de la société. C'est un petit peu, voilà, je vous ai dressé dans les grandes lignes un petit peu les idées qui, bon, vers quoi ils veulent nous amener à travers ce grand reset. Mais il y a aussi un reset qui est positif, donc qui implique les militaires positifs, qui implique des chapeaux blancs à la surface de la planète, qui, à l'inverse, lui, va remettre en place un système équitable basé sur des vraies valeurs telles que l'or, l'argent et la valeur réelle des pays et des individus. Donc une vraie valeur et non pas une monnaie aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, la monnaie ne veut absolument plus rien dire puisque vous savez qu'ils font tourner les planches à billets à gogo où ils créent des... Il crée de la monnaie à partir de rien parce que ils ont justement le contrôle total encore la cabale sur le système économique mondial. Donc revenir faire un grand reset pour revenir à des vraies valeurs, à une monnaie d'échange qui serait adossée à des vraies valeurs avant un abandon d'ailleurs complet du système monétaire puisqu'on pense que dans les années qui viennent. Suite au grand reset, il y aura sans doute, et avec l'arrivée des nouvelles technologies, les réplicateurs, les énergies libres, la monnaie deviendra superflue et on ira vers un abandon total justement de la monnaie. Donc, les personnes qui se sentent guidées peuvent méditer contre la tyrannie médicale. Donc, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, venez, encore une fois, venez dans le groupe Méditons Ensemble pour la libération planétaire. Venez faire les méditations de groupe avec nous pour justement, à votre manière, s'opposer à la mise en place de cette tyrannie médicale qui crève les yeux. Ceux qui ne voient pas encore la tyrannie médicale en train de se mettre en place, je suis assez compatissant face à eux, j'ai du mal à les comprendre, même si malheureusement, le harcèlement mental et médiatique est puissant. Et justement nous impose un narratif contre lequel il est difficile de lutter parfois. Donc, mais avec ce scénario de pandémie, les forces obscures ont fait une grosse erreur. Donc ceci est un récit fictif de ce qui les attend. Alors là, il nous donne un lien. Et en réalité, oui, c'était une grosse erreur. Pourquoi ? Ben parce que au final, ça a fait apparaître au grand jour leurs mensonges. Ça a fait apparaître au grand jour. Le fait qu'il y avait un scénario qui se déroulait, un agenda qui se déroulait au niveau mondial et synchronisé dans tous les pays. Donc, ça a fait apparaître, en tout cas pour ceux qui ont été capables d'ouvrir les yeux, ça a fait apparaître au grand jour justement cette machination planétaire. Donc, il y a beaucoup de liens qui sont donnés dans la mise à jour de situation planétaire. On vous invite à les découvrir. Et si vous ne parlez pas l'anglais, vous pouvez utiliser la traduction automatique. Donc n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, des interventions, donc on arrive à bientôt à 2 heures d'émission. On va finir de commenter cette mise à jour de situation planétaire et puis après on passera en mode after comme on a l'habitude de faire sur Radio Pléiade. Donc on rechange à nouveau de registre. Donc Cobra voudrait attirer notre attention sur une société peu connue qui est appelée Endurance International Group. Donc c'est une vraie société, hein, elle existe bien, vous pouvez vérifier. Cette société, donc partiellement détenue et contrôlée par Goldman Sachs et Warburg Pincus, je ne sais pas trop comment prononcer ça, possède la majorité des sociétés d'hébergement web bien connues telles que HostGator, Bluehost. Mais en réalité, si vous allez dans le lien qui nous est communiqué, vous allez voir que EIG, donc Endurance International Group, est une société qui possède près de 70 sociétés différentes qui fait du hosting de sites web. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Sans Internet, il aurait été quasiment impossible mettre en place justement une résistance, une dissidence, de faire en sorte qu'il y ait un éveil massif des consciences. Internet a été un outil extrêmement puissant pour la lumière, et c'est pour ça que nous pensons d'ailleurs que derrière la création d'Internet, même s'il y a aussi les militaires qui s'en sont emparés, il y a des forces positives. Et sans Internet, beaucoup de prises de conscience n'auraient pas eu lieu parce que les médias dominants sont entièrement contrôlés par la cabale et Internet n'était pas un média contrôlé par la cabale, même s'ils ont tout fait pour essayer de le contrôler. Qu'est-ce que nous dit Cobra à travers cette information et le groupe EIG? C'est que la cabale, malgré tout, a pris le contrôle d'une grande partie d'Internet, tout au moins l'hébergement des sites. Donc, ils sont capables de voir en fait toutes les données qui transitent par ces sites web qui sont créés par des gens comme vous et moi, justement, alors des chercheurs de vérité, mais aussi des sites web quelconques, mais c'est surtout les chercheurs de vérité qui les intéressent. Donc, ces données passent par les centres de données donc d'EIG dans l'Utah. Ils ont une base dans l'Utah et qui ne sont qu'à quelques kilomètres du centre de données de l'Utah, en fait, des chimères. Le centre de données de l'Utah est l'un des principales installations de traitement des données contrôlées par le groupe Chimère qui surveille la vie de la population de surface et l'autre base étant située à Urim en Israël. Donc en fait, tout ça pour dire que on a le sentiment d'avoir une certaine liberté avec Internet, même si on a beaucoup de censure à travers les réseaux sociaux comme Facebook, qui peut être encore en panne à l'heure où je vous parle. Ils nous ont beaucoup réprimés. Ceci dit, on a encore la sensation d'avoir un petit peu de liberté avec nos sites pour pouvoir diffuser de l'information alternative et faire en sorte que les chercheurs de vérité fassent leur travail. Ceci étant, la cabale a aussi fait son travail et a tenté de mettre la main, a tenté une prise de contrôle massive sur les sites web. Et peut-être qu'elle sera en mesure justement de les éteindre plus facilement le moment venu, puisqu'ils sont les détenteurs de la société qui héberge ces sites-là. Donc voilà, donc c'est un pouvoir occulte dont il faut avoir conscience. Mais c'est vrai que c'est tentant d'aller dans des sociétés d'hébergement. Tout le monde n'est pas capable d'avoir son propre site web à la maison, son serveur à la maison, et qui tourne 24 heures sur 24, avec tout ce que ça implique en termes de vulnérabilité par rapport à tout ce que peut offrir un hébergeur. Donc voilà, donc ce groupe EIG a pris de l'importance dans le domaine du contrôle des données grâce à la loi sur les télécommunications de 96 qui a été promulguée le 8 février 96, 4 semaines seulement après l'invasion des Archontes que l'on a évoqué à plusieurs reprises déjà sur cette radio et sur cette chaîne et dans les nombreux articles que nous publions. Donc pour terminer cette mise à jour de situation planétaire, et on arrive à 2 heures, timing incroyable, l'ancien monde est en train de s'effondrer lentement et un nouveau monde est en train de naître. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur le nouveau monde en train de naître si vous vous sentez guidé. Et puis, vous pouvez aussi agir avec nous. Alors ça, c'est moi qui rajoute ça. Vous pouvez agir avec nous à travers ces groupes de méditation en venant participer à notre marathon spirituel le 16 octobre et en allant faire une séance de chambre à tachyon. Je ne sais trop quoi dire encore. En tout cas, il y a beaucoup de moyens justement pour participer pour contribuer à la lumière sur cette planète. Et je vous laisse, allez-y, hein, je vous laisse, venez poser vos questions, n'hésitez pas. Je me sens un peu coupable de faire presque un one-man show. Heureusement que Cindy, Florence, Sandrine sont là. Mais allez-y, venez poser vos questions, venez intervenir avant que nous ne passions en mode after. Donc, on est toujours dans la phase enregistrée de cette émission. On est 135 personnes encore sur cette émission. Est-ce que je suis étonné qu'il n'y ait pas de... Alors, Dio du village, vas-y, tu peux activer ton micro. Allô? Tu dois activer ton micro si tu veux parler.
Merci. Bonsoir à tous.
Ouais, bonsoir.
J'avais une question par rapport aux méditations. En fait, il y a toujours des rituels de protection au début. Comment est-on sûr qu'on est bien protégé quand on effectue ces protections?
Très bonne question.
Vas-y, Sandrine.
Ce sont des protocoles donc qui sont complets avec au tout début un petit nettoyage avec son étoile d'âme et le feu blanc de Anne qui est un purificateur transmutateur d'énergie lourde on va dire et donc la protection et ensuite on visualise son bouclier. Donc il suffit juste de le sentir au niveau de soi, on est sûr qu'on a le bouclier. Tout vient aussi de la conviction. pour l'appuyer justement et ancrer cette protection.
Alors moi je rajouterais que la pensée est créatrice. Donc quand on déroule le protection notamment, donc on a ce support vidéo qu'on utilise beaucoup, et en fait on déroule en visualisation le plan physique, le plan plasmique, le plan éthérique, le plan émotionnel, astral, et le plan mental. Dans cette visualisation, on visualise justement ce bouclier échelonné sur tous les plans. Et comme la pensée est créatrice, le simple fait de le visualiser va le mettre en place. C'est pas plus compliqué que cela. Et le fait qu'on déroule justement toutes les couches de physique à mental permet de s'assurer d'avoir une protection sur tous les plans qui sont potentiellement à la main de la dualité des contrôleurs de cette matrice.
Oui, tout à fait ça.
Mmh. On a le choix entre plusieurs protocoles de protection. On a cette espèce de bouclier aux bulles de protection énergétique. On peut aussi se faire sa propre aux propres bulles énergétiques de sa propre couleur. On a le rayon vert, on peut avoir le blanc, le rose, etc. Et on a aussi les protocoles pléiadiens, surtout le commandement 12-21 qui nous apporte assistance et une certaine protection aussi. Je pense que Sandrine ne me dira pas le contraire.
Tout à fait. Il y a les protocoles qui sont déjà mis en place, qui sont efficaces déjà au niveau de la protection. Et bien sûr, si vous le sentez, vous êtes inspiré pour visualiser, par exemple, du bleu ou du violet ou du vert ou n'importe quelle couleur, vous le sentirez aussi. Et à ce moment-là, la protection sera mise en place.
Donc voilà, j'espère que ça répond à la question.
Oui, ça répond à la question, merci.
Merci à toi. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, une réaction par rapport à tout ce qui a été dit, parce que c'est quand même sacrément perché tout ce qu'on vous a raconté là pendant 2 heures, des fois même un peu complexe. Est-ce que vous avez des réactions? Je serais curieux quand même de connaître un petit peu vos réactions. Alors, j'ai pas forcément suivi tout ce qui s'est dit dans le chat. Cindy, n'hésite pas à remonter éventuellement des questions qui auraient pu apparaître dans le chat.
J'ai transféré dans notre chat privé entre Anne et une radio pléiade.
Tu as dévoilé nos secrets. Alors, qu'on a
les lives et on s'organise, on communique entre nous, on est très organisés quand même, on ne se lance pas à l'aveuglette.
Alors, je vois qu'il y a une question de Mosha. Vous parlez beaucoup d'Atlantis. Depuis quelques années, on dit beaucoup de bien et autant de mal des méthodes Reiki. Un point de vue à donner. Alors, je ne sais pas pourquoi Atlantis et Reiki. J'avoue que je ne sais pas. Tu as compris la question, Cindy? Mais bon, en tout cas.
Non, je n'ai pas compris une partie de la question. Alors, encore les civilisations anciennes. Je peux encore parler Atlantide et Hyperborée. Mais je ne vois pas le lien avec Reiki, hein. Sincèrement.
Ouais, bon, on fera sans doute une émission sur Atlantide et Hyperborée, puisque Cindy est une spécialiste du sujet. Mais oui, le Reiki, en fait, je ne dirais pas qu'on dit du mal du Reiki. Je dirais qu'on a, en fait, on a conscience que le Reiki, en fait, il est d'origine jésuite. Le Reiki a été mis en place, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non pas par les forces de la lumière, mais par des forces qui veulent nous garder dans cette matrice, parce que le Reiki fait appel à un égrégore qui est sous contrôle, en fait, qui reste sur les plans de la dualité. En fait, nous, quand on fait des colonnes bouddhiques, quand on fait des exercices de méditation, on va chercher, ou le feu blanc de Han, la flamme violette, on va chercher des énergies qui sont au-delà de la dualité, qui sont en dehors de la matrice. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser les Grégores Reiki pour soigner, c'est clair, vous pouvez le faire, mais les Grégores Reiki ne vous permettra pas, ne sera pas un outil pour vous permettre de saper la matrice. Il faut absolument aller chercher des énergies, des fréquences plus élevées qui sont à l'extérieur de la matrice si on veut arriver à sortir de là. Donc voilà, donc c'est pour ça que le Reiki en fait a été une espèce de pot de miel pour les gens comme nous qui sont des chercheurs de vérité. Des chercheurs dans le domaine de la spiritualité, parce qu'on y trouve un certain contentement, puisqu'on est connecté à des énergies, donc on ressent les énergies, on est content, on les utilise, on voit qu'elles ont un effet, mais ces énergies nous mettent d'une certaine façon dans une certaine inefficacité spirituelle parce que nous empêche de monter à des fréquences plus élevées qui pourraient mettre en danger la matrice. C'est ça la critique que nous émettons par rapport au Reiki.
Peut-être que Moshe peut préciser sa question puisque je le vois dans la liste des auditeurs et j'ai enlevé le micro rouge pour qu'il ou elle puisse s'exprimer.
Alors Allô après, on a... Ah oui, vas-y Moshe.
Bonsoir. Non, vous avez très très bien répondu à la question. En fait, c'est exactement ce que je ressentais sur le sujet, mais j'étais curieuse d'avoir votre interprétation là-dessus. Et après, par rapport à ma question, du coup, c'était que dans la tradition, le mythe, il est dit que le Reiki est issu, enfin provient à la base du peuple des Atlantes. Mais voilà, moi j'ai plus la même impression que ce que vous avez dit, donc merci.
Ok. Alors, on a une question qui est liée à la panne Internet là, que nous vivons. Hein. Donc, vous êtes bien sur Telegram, vous voyez. Telegram, bon, on est chez les Russes, hein, c'est vrai. Mais on n'est pas chez les Américains, du coup. Mais, donc là, il y a une grosse panne Internet qui concerne Facebook, WhatsApp et Instagram. Je pense qu'elle est encore à l'heure actuelle. Donc, une personne nous pose la question. Donc, Eni, pensez-vous que la panne Internet de ces réseaux sociaux actuels est partie du plan du Grand Reset et notamment du forum de Davos et simulation de cyberattaque? Ou bien cela est un fait de la résistance pour divulguer les plans de la cabale? Eh bien, Eni, je vais te dire, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais que ce soit effectivement une des actions de la résistance parce qu'encore une fois, justement, ces réseaux sociaux nous censurent terriblement et vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est une censure algorithmique. Donc, c'est une censure invisible. On a l'impression d'exister, on est dans sa bulle cognitive, on poste des publications et elles n'apparaissent jamais sur les murs de nos contacts, de nos amis. C'est ce qu'on appelle de la censure algorithmique. Est-ce que ce sont des cyberattaques? Effectivement, c'est tout à fait possible parce qu'on sait qu'il y a eu des simulations qui ont été faites récemment. Et donc, si on fait l'analogie avec la pandémie où il y a eu l'événement 209, où il y a eu des simulations de pandémie mondiale juste avant le démarrage de la grande pandémie, on pourrait très bien envisager effectivement que nous vivons actuellement des cyberattaques massives suite aux simulations qui ont été faites par le forum. Voilà, donc les deux hypothèses sont tout à fait intéressantes, mais malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, cette situation est particulièrement intéressante parce que cette indisponibilité que vit actuellement Facebook et à un caractère complètement exceptionnel, et je suis impatient de connaître les justifications publiques qui seront données à cette indisponibilité, justifications publiques qui ne seront sans doute pas la réalité des choses. Je pense qu'on ne dira pas tout. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres interventions. Alors, ce n'est pas forcément directement en lien avec ce qu'on venait de dire. Mais je suis vraiment étonné que vous n'ayez pas plus de questions en lien avec tout ce qui vient d'être dit. Ou alors on vous a complètement assommé et lobotomisé avec nos informations galactiques en veux-tu, en voilà. Alors je vois qu'il y a Cindy qui est en train de passer les micros en grisé pour vous faciliter la prise de parole. Donc, s'il n'y a pas plus de prise de parole que ça, moi, je vais mettre un terme à l'enregistrement. Et puis, peut-être que la prise de parole sera plus facilitée dans l'after. Alors, Yashoun, vas-y, tu peux prendre la parole. Tu peux activer ton micro, Yashoun.
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je vous ai écouté attentivement. En fait, pourquoi il n'y a pas trop de questions? Je pense parce que les réponses sont assez pointues. Et que pour apporter des questions sur tout ce que Cobra et tout ce qu'on vient de disserter, il faut avoir une certaine connaissance assez élevée. Enfin, je sais pas. Et puis aussi, je pense qu'on est dans un groupe assez éveillé où on connaît bien Cobra. Et donc, ben, finalement, ça coule de source, quoi, tout ce qui se passe. Donc, moi, je reste positif. Je trouve ça, tout ce qui se passe est extrêmement positif. Même si, voilà, bah, c'est normal. Hein. Dans toute guerre, on perd des batailles, on en gagne d'autres. Et puis, petit à petit, la stratégie se met en place. Stratégie surtout énergétique, quoi. Et donc, il faut garder la foi, si je puis dire. et puis continuer sur notre lancée. Voilà, c'est tout. Merci pour tout, merci pour tous les intervenants. C'était vraiment très, très, très intéressant. Et je paye vivement l'after. À tout de suite, merci.
Ok, super. Ben, merci beaucoup à toi. Écoute, oui, mais je pense que ça pourrait être le mot de la fin. Je ne sais pas si l'un des co-animateurs, l'une des co-animatrices souhaite donner un petit mot de la fin, mais enfin, en tout cas, je trouve que là, on est bien pour terminer et passer en mode after. Cindy, Sandrine, Florence, Gwen, André, est-ce que vous souhaitez un petit mot de la fin avant de mettre un terme à cet enregistrement?
Il faut tenir la lumière et on la tiendra. Et on ira jusqu'au bout pour la victoire.
On ne cédera à rien. Merci Sandrine. Cindy?
Eh bien, tenons bon. C'est la dernière ligne droite, c'est toujours la plus dure à la fin de la course. Et s'il y en a quelques-uns qui faiblissent, on va faire preuve de solidarité. On va les prendre par la main sur notre épaule et on va les aider à franchir la ligne d'arrivée.
Voilà, et on vous invite à venir faire notre marathon. Et si vous vous sentez pas prêt pour le marathon, vous pouvez faire le mercredi d'avant l'entraînement avec nous, puisqu'on aura une séance de dissolution des implants. Mince, c'est quel mercredi? J'ai plus le, ça doit être le 12, le 12 octobre, mercredi 12 octobre. Voilà, vous pourrez vous entraîner avec nous avant de faire ce marathon le 16 octobre. Parce qu'on risque le claquage quand même, hein, si on part en marathon direct sans avoir un petit peu d'échauffement. Oui,
on va s'exprimer, je crois.
Vas-y. Nkini, tu souhaitais t'exprimer? Vas-y. Non? Bon, c'était peut-être une erreur. Enfin, voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Et donc, on vous invite donc ce mercredi soir à la session de dissolution des implants en anglais pour ceux qui peuvent le suivre en anglais. Mais bon, même si vous parlez pas l'anglais, vous pouvez la faire avec nous. Mercredi de la semaine suivante en français et donc le 16 à notre marathon spirituel. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission qui sera convertie donc en vidéo sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa. D'ici un jour ou deux, mais que vous pouvez écouter en replay quand vous le souhaitez à partir de Telegram, puisqu'on va mettre ça dans Victoria Luminis. Merci à tout le monde. J'arrête l'enregistrement ici et à lundi prochain pour ceux qui seront avec nous sur Radio Pléiade lundi prochain. Nous ne connaissons pas encore le thème de lundi prochain. Les synchronicités se chargeront de l'établir, mais on a quelques petites idées en tête. Voilà. Merci à tous et bonne soirée et rendez-vous sur l'after. Incessamment tout de suite. Au revoir. Donc voilà, l'enregistrement est terminé. Vous êtes dans l'after, vous n'êtes plus enregistré. Si vous souhaitez intervenir, prendre la parole, poser des questions, faites-le sans hésitation. Donc tous les micros sont en gris, donc vous pouvez activer directement votre micro si vous le souhaitez. Allez, quelqu'un se lance? Après,
on est timide, hein, c'est pour ça.
Ah ouais, vous êtes fini, ouais. Je vous ai achevé. Je suis vraiment désolé. Je vous ai épuisé avec mes histoires de bombes toplettes, de longueur de planque, etc., etc. C'est vrai que je suis.
Non, Hervé, dis donc.
Non, mais je suis d'accord, c'est pas toujours facile de commenter les mises à jour.
Mais t'as pas sorti dans l'espace aussi, tu sais, des plans subtils, alors forcément, au bout d'un moment.
Donc, l'hyperborée, Sandrine, oui, vous êtes là pour continuer à
animer. Non, mais là, d'ailleurs, on a Prina qui est là aussi, qui souhaiterait s'exprimer, je crois.
Allez, Prina.
Oui, bonsoir tout le monde. Ben, en fait, c'est par rapport à la dissolution des implants de mercredi dernier, si, pour changer un peu de sujet.
Pour avoir fait la batterie à 100%.
Comment ?
Il est brûlant en plus. Parce que ça fait
deux ans. On m'entend ?
Vas-y, Prina.
Ah, vas-y, donc, c'est par rapport aux aplans de la dissolution des aplans de la semaine dernière, de mercredi dernier. J'en avais parlé déjà à Sandrine. En fait, ben moi, ce qui s'est passé, j'ai pris le texte. Que, bon, déjà, j'ai eu une barre au niveau de l'arcade sourcilière gauche. J'ai eu une douleur, j'ai sorti vraiment une barre durant la dissolution. Et puis après, quand ça a été terminé, le soir, j'ai mis le texte qu'on a écrit, je l'ai mis sous mon oreiller et j'ai dormi dessus. Et j'ai eu une nuit très agitée et j'ai fait des cauchemars. J'ai mon cœur qui s'est emballé, je me suis réveillée, j'ai fait la commande 1221, je l'ai dit trois fois, j'ai prié pour être dans une bulle d'amour, de protection, enfin voilà, parce que j'étais vraiment très perturbée. Et donc depuis mercredi, j'ai vraiment des nuits très, très agitées. Donc, c'est la première fois que je fais ça, hein, que je fais la dissolution des aplans. Ça m'était, voilà, je ne l'avais jamais fait auparavant. Et voilà, et encore cette nuit, alors que je dormais super bien avant, je passais vraiment de très, très bonnes nuits. La nuit dernière, j'ai encore fait des rêves un peu trop bizarres. Hein. Et la nuit dernière, j'ai rêvé de reptiliens. Enfin, ils étaient habillés très normalement, c'était des personnes très normales d'aspect. Et juste quand je regardais leurs yeux, ça changeait, la rétine, elle changeait de forme, de couleur. Il y avait comme un code qui était dedans, qui était à travers les yeux, quelque chose de codé. Et apparemment, il y avait que moi qui pouvais les voir. Les personnes avec moi ne pouvaient pas les voir. Il n'y avait que moi qui pouvais les voir. Et du coup, il fallait que j'aille dans l'état de Wyoming ou quelque chose comme ça aux États-Unis pour aller voir un chef indien qui devait me protéger de ces reptiliens. Et voilà, donc je l'ai rencontré, ce chef, mais c'était une chef, c'était une grande femme, vraiment très grande, avec des longs cheveux noirs, hein, qui m'a protégée des autres reptiliens qui étaient là encore, qui me poursuivaient. Enfin voilà, pour dire que, en fait, tout ça pour dire que, en fait, il me semble que les implants, la dissolution a eu quand même un certain impact, parce qu'avant, j'avais un sommeil assez. Assez bon, et puis là je suis perturbée depuis mercredi dernier. Voilà, c'était juste pour faire un témoignage par rapport à ça. Et je voulais savoir aussi en même temps si pour le prochain la prochaine dissolution, comme elle sera en anglais, si on peut quand même la faire, puisqu'on a eu celle en français, si on peut participer en même temps en la faisant en français par rapport à l'ancien qui a eu mercredi dernier. Voilà. Merci.
Alors, je ne sais pas qui veut intervenir, mais en fait, c'est clair que le travail de dissolution des implants, ça travaille vraiment profond. Hein. C'est voilà. C'est vrai que c'est un travail qu'on devrait presque déconseiller à des personnes qui n'ont pas. Je parle pas de toi, hein, entendons-nous bien. C'est un travail qu'on pourrait presque déconseiller à des personnes qui n'ont pas commencé à travailler sur elles-mêmes, qui n'ont pas commencé à sortir les poubelles, parce qu'on en a tous des poubelles, hein, énergétiques. En fait, c'est la matrice est construite comme ça. Elle nous a chargé des couches et des couches avec des traumas de vie en vie, des traumas énergétiques, des traumas émotionnels, etc. On en a plein. Parce que la matrice fonctionne comme ça pour pouvoir alimenter le louche, donc les énergies négatives. Donc c'est vrai que quand on touche aux implants, on touche à quelque chose de très profond. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir déjà un certain cheminement spirituel avant de commencer à toucher aux implants. Donc je pense que c'est ton cas. Mais ceci étant, même si c'est ton cas, voilà, c'est. Je pense qu'il faut. Il faut vraiment mettre une attention toute particulière au protocole de protection et d'annulation des contrats, parce que ça, normalement, ça leur enlève toute prise sur nous pendant ce travail-là. Si on le fait, si on a un petit manque, un petit défaut d'attention ou qu'on le fait pas très très bien, ça peut leur laisser une prise, justement, pour venir nous titiller lorsqu'on fait ce travail sur la dissolution des implants. Et après, effectivement, ce travail peut avoir des conséquences dans les semaines qui suivent. Parce que justement, on fait rentrer plus de lumière en nous. Quand on fait rentrer plus de lumière en nous, on débloque des nœuds. Quand on débloque des nœuds, on débloque des mémoires. Quand on débloque des mémoires, eh ben, y a des choses qui remontent à la surface et c'est pas très agréable. Donc, voilà, il y a toute une mécanique subtile, effectivement, qui se joue pour retrouver la supraconductivité qu'on avait au niveau de nos cœurs subtils à l'origine. Et voilà, et après, suivant nos connexions, bah, y a des choses, certaines choses remontent. Suivant nos blessures personnelles, certaines choses remontent, d'autres non. Moi, j'ai envie de dire, tu sais, en fait, à partir du moment où tu as mis un pied là-dedans, tu es obligé de continuer, de foncer tout droit, parce que il n'y a plus de retour arrière possible, en fait. Donc, il faut continuer, persister, faire les exercices, et jusqu'à ce que tout ceci s'éclaire.
Oui, ben justement, en fait, même si je fais des cauchemars, même si mon cœur s'est emballé et tout, ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça me donne l'envie d'aller plus loin encore, un peu comme de combattre un petit peu tout ça, parce que je pense que ça a déclenché quand même, ça a eu quand même un impact sur moi, j'ai l'impression. Et j'ai envie de dire ben ça ne c'est pas parce que je fais des cauchemars, c'est pas parce que j'ai une nuit agitée que ça va m'arrêter. Au contraire, ça me donne envie d'aller encore plus loin voilà. C'est pour ça que je demande aussi si mercredi, comme ce sera en anglais, si je peux participer en le faisant donc en français par rapport à ce que en remettant le live pour être en connexion avec celui de ce mercredi, mettre celui de la semaine dernière pour être synchronisé.
Alors, tu as deux options. Soit effectivement, tu rejoues le live de la semaine dernière, mais il n'y aura pas une synchronicité parfaite parce qu'il n'y a pas toujours le même timing dans les explications, la prise de commentaires, etc. Soit tu suis la séance en anglais et comme il y a des supports visuels qui sont multilingues, tu sais à quel moment on fait la protection, tu sais à quel moment on fait le 12-21, à quel moment on fait le je suis Dieu, etc. Donc, tu peux le faire aussi, si tu veux le faire vraiment en synchronicité avec nous, tu peux suivre la session anglaise, puisque tu connais déjà les exercices.
Je suis là en être francophone aussi durant les sessions anglaises.
Je n'ai pas compris, pardon.
Durant les sessions anglaises, je suis toujours là en être francophone et anglophone.
Ah bah super, merci. Je ferai comme ça alors.
On a la chaîne à la fois YouTube Hervé Gaïa, surtout pour les francophones, et surtout pour les anglophones, on a la chaîne Victory of the Light. Mais je suis sur tous les fronts, n'est-ce pas Hervé?
Une vraie guerrière.
Tout à fait. Alors moi, j'ai une petite annonce à vous faire, je suis désolé, mais des forces ont décidé que l'émission que nous avons faite ce soir ne serait pas mise en ligne parce que l'enregistrement ne s'est pas fait ou a été effacé. Voilà. Donc il y a des choses peut-être qui ont été dites qui n'auraient pas dû être dites ou je ne sais pas ou qui dérangent. Mais quoi qu'il en soit, l'enregistrement est perdu. Si l'un d'entre vous, par le plus grand des hasards, aurait fait un enregistrement personnel, je suis intéressé. Merci de me contacter. Mais là, je constate que vraisemblablement, cet enregistrement est perdu et j'en suis désolé. J'en suis grandement désolé.
Ah ben, c'est pas de chance.
Non, c'est pas de chance. Mais c'est peut-être pas une histoire de chance.
Essayez tous le 12-21 en demandant ce qu'il y a un
enregistrement. Entre Jonathan qui n'a pas pu être là et puis le live qui ne peut pas être enregistré, c'est vraiment dommage.
Ouais, c'est vraiment très très dommage. Surtout qu'on a dit vraiment beaucoup de choses. On était quasiment 160 participants à un moment. C'est vraiment très très dommage. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est peut-être pas tout à fait un hasard. On pourrait mettre ça sur le dos de la grande panne planétaire, mais il n'y a pas de problème chez Telegram. Donc c'est un peu curieux. C'est un peu curieux. Bon voilà, on parlait tout à l'heure hein, de EIG, du fait que tous les sites web bon, sont sous observation, mais il y a beaucoup de voilà, nos échanges sont aussi sous observation. Et s'il y a des choses qui déplaisent, je pense que c'est tout à fait possible d'effacer certains documents. Hein. Ils ont la main là-dessus. Donc voilà, c'est dommage. Gardez-le dans votre tête. Cette émission ne sera pas refaite, malheureusement. Donc voilà, on va faire le commande 12-21, mais peut-être qu'il y aura un miracle demain matin, mais j'ai assez peu d'espoir. Donc moi, je vais vous laisser. Je vous laisse, Cindy. Je ne sais pas s'il va y avoir encore des questions, des réactions, mais personnellement, je vais vous laisser. Je vais me reposer. Donc merci à vous. Et
la veilleuse énergétique sont toujours là.
Ouais. Merci à vous et puis à lundi prochain. Et puis vraiment, encore une fois, je suis confus de cette situation du non d'enregistrement de l'émission. Allez, bonne nuit à tout le monde et puis je vous laisse entre de bonnes mains. À bientôt.
À bientôt, Hervé. Et merci à tous les fidèles et à ceux qui restent. On est 76, enfin 75 maintenant. Donc, si vous n'avez pas osé poser de questions pendant la session enregistrée ou si vous voulez parler de quelque chose que vous avez vécu, vous voulez des éclaircissements, être rassuré, vous voulez des conseils, vous voulez parler d'autre chose que la mise à jour de situation planétaire de Cobra, nous sommes là pour répondre du mieux que nous pouvons. Nous sommes là pour vous écouter. Non, vous n'êtes pas fou. Nous ne vous prendrons pas pour un fou, pour une folle. Nous sommes là entre éveillés et travailleurs de lumière. Si vous avez des questions concernant les énergies, les méditations, Sandrine est là pour vous éclairer. Notre veilleuse des énergies, notre veilleuse énergétique, qui fait partie d'une grande armée de guerriers et guerrières de lumière sur les plans subtils.
Oui, et on est une sacrée équipe en plus. Donc, merci pour cette équipe.
Donc, si vous souhaitez intervenir, vous devez activer votre micro.
Alors, de Choune, moi, je ne sais pas si ça a un rapport, ce que je vais dire, mais la semaine dernière, j'étais malade, on va dire, une sorte de gros rhume. Rien à voir avec le truc pseudo, je ne sais pas quoi, qui n'existe pas, selon moi. Et on dirait que ça persiste comme une sorte de je ne sais pas, ça bouillonne ou je ne sais pas quoi. Et je me suis dit, bon, c'est rien, ça arrive. Et je me suis renseigné un petit peu autour de moi. Et une majorité des gens que je connais autour de moi me dit, mais moi, j'ai eu la même chose la semaine dernière, et pareil, et pareil, fatigué, et oui. Alors, je sais que c'est l'automne arrive, puis qu'on a eu un été un peu bizarre, etc. Donc, je peux comprendre les changements de température et tout ça. Mais ma question, en gros, c'est est-ce que vous avez, c'est juste comme ça, hein, j'essaie pas de faire aucun rapport de quoi que ce soit, est-ce que c'est lié aux énergies ou quoi, est-ce que vous avez remarqué cette baisse d'énergie, justement, la semaine dernière et même encore un petit peu là, au début de semaine?
Je confirme comme Choune, même chose, pardon, c'est Laurent, grosse baisse d'énergie et espèce de rhume qui m'est tombé dessus comme.
Ouais, exactement pareil pour moi. Depuis jeudi, vendredi, voilà, des hauts, des bas, alors que je suis quelqu'un d'hyper joyeux. Il y a un truc vraiment bizarre. Et par rapport à Prina, j'ai récupéré mes rêves aussi à partir de la séance-là. Alors que j'ai eu beaucoup de mal à rêver, là, c'est. Après, à partir de la séance de mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et voilà, je fais des rêves un peu dans le même genre que toi, sans reptilien, mais un peu dans le même genre avec le même type de message. Voilà.
Effectivement, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient enrhumées. Et, alors, effectivement, il y a le problème que c'est l'automne. il faut renforcer son système effectivement immunitaire pour faire face aux rhumes, aux allergies aussi. Il y en a beaucoup qui se sont déclenchées là ces derniers temps, mais on va dire qu'il y a un énorme brassage énergétique en ce moment. Donc forcément, ça va mettre à mal un petit peu le physique s'il est un petit peu affaibli, ainsi que le mental. Donc il faut vraiment renforcer avec des vitamines, des minéraux, pour aider justement tout le corps à tenir et tout le système énergétique aussi à être renforcé. On va dire que certains, ça va être sur le plan mental, d'autres sur le plan émotionnel, d'autres sur le plan physique, mais ça brasse, c'est sûr.
Merci pour la réponse.
Ouais, moi aussi, je ressens quand même sur un plan physique, je ressens quand même que j'ai des douleurs qui remontent, que je sens plus, notamment de mon agression que j'ai eue au mois d'avril déjà. Je sens que... Après, c'est peut-être le temps aussi, le changement de météo qui fait que aussi qui joue aussi un petit peu sur cet état, que ce soit physique ou psychologique ou peut-être même vibratoire, peut-être.
Oui, tout est lié, hein. Tout est lié parce que on dit toujours qu'il y a la petite déprime de l'automne, hein, que l'été se finit, l'ensoleillement naturel va commencer à baisser aussi. Donc c'est là où justement il va falloir renforcer votre défense immunitaire. Hein. Il faut vraiment s'occuper de soi à ce niveau-là pour être un petit peu moins fragilisé, on va dire. Donc vraiment se centrer sur soi et sur son bien-être, vraiment. C'est important.
Vous pouvez aussi poser des questions, parler de d'autres plans que les plans physiques.
Moi, j'aimerais demander à Sandrine, quand on fait la méditation comme ça, tu sais bien, Sandrine, moi, je ne suis pas une experte de la méditation. Je viens tant que je peux participer et je ne suis pas dans un niveau avancé certaines qui sont dans le groupe. Et je me suis déjà posé la question et j'avais envie de te poser la question justement. Je me disais que j'allais te demander en privé, mais finalement, je te le demande ici. Si je n'empiète pas aussi du fait que je ne sais pas faire convenablement les méditations, si je n'empiète pas est-ce que c'est bon quand même que quand bien même on n'est pas très concentré, on n'arrive pas à avoir une grande concentration, ça a quelque chose quand même, si on apporte quand même quelque chose, ou si des fois on n'en profite pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre clairement.
Oui, tu te fais très bien comprendre, hein. Il n'y a pas de souci. On va dire que quand on fait une méditation, on va ressentir, on l'a dit, je pense, et on l'a répété plusieurs fois. C'est pas une question de, il y en a qui sont plus doués que d'autres, pas du tout. Tout dépend de la sensibilité et puis le ressenti de chacun, parce que l'on reçoit les informations énergétiques de façon différente tous et on les décode tous différemment en fait. On va les décoder avec des ressentis. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Bien au contraire, ça se fait aussi le travail, que ce soit pour une colonne bouddhique ou une autre méditation, il n'y a aucun souci là-dessus. À partir du moment où on le fait en conscience et avec son cœur, on va dire, hein, puisqu'on fait tous ces méditations pour un seul but, ne serait-ce que ça, ça travaille. Donc, effectivement, parfois, quand on nous écoute, on a l'impression qu'on a des super-pouvoirs, mais pas du tout. On fait juste une lecture avec nos sens qui sont déjà développés ou qui sont en voie de développement, tout simplement. Et plus on va en faire, et plus ils vont se développer. On libère de l'énergie pour en remplacer par d'autres. On se libère de nos fardeaux et on a de la lumière qui rentre de plus en plus. Ce n'est pas une question de, on va dire, de savoir-faire ou d'ego. C'est une question de comment on ressent les choses, en fait, et comment on les perçoit et comment on les décode. C'est tout, tout simplement ça, en fait. Hein. Mais même les débutants, même s'ils pensent que ce n'est pas efficace ce qu'ils font, en fait, ils se trompent parce qu'en fin de compte, il suffit juste d'y mettre l'intention et le travail se fait en même temps que nous. C'est tout. Même les débutants sont acceptés, même s'ils ne savent pas vraiment poser la colonne. Ça va faire son cheminement au fur et à mesure des colonnes, mais dès la première colonne, on va dire, dès la première méditation, le travail se fait, même si on n'en a pas vraiment conscience.
Merci pour ta réponse. C'est rassurant parce que c'est vrai que il y a des fois, enfin, je me suis quelquefois posé la question, mais de toute façon, quand je participe vraiment avec du mieux que je peux et avec beaucoup de bonnes intentions. Et voilà, c'est juste la concentration que des fois je n'ai pas vraiment très très grande, mais je pense qu'avec avec la pratique, ça viendra. Et puis aussi, cette question, je pense qu'elle permet aussi aux autres, peut-être qui écoutent et qui ne sont pas venus cette méditation de groupe, de se dire, tiens, aussi, je vais essayer, et même si je ne suis pas douée, en fait. Donc, venez, hein, venez rejoindre le groupe.
Ce qu'il y a de bien, c'est que justement pendant ces méditations, c'est chacun découvre ses propres ressentis, ses propres capacités en fait. Ça va être des frissons, ça va être des sensations, ça va être même parfois des odeurs qui vont arriver, des odeurs de fleurs, des odeurs. C'est juste que nos sens vont se développer en chacun en fait. Et chacun va pouvoir se centrer sur ce qu'il ressent et décoder ce qu'il ressent. C'est surtout ça en fait. Mais même les débutants, je veux dire, peuvent venir. Il n'y a pas de question d'ego ou de supériorité, puisque nous travaillons tous ensemble et en collaboration. Donc, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Aucun.
Ouais.
Alors, oui, pardon. Je parle en même temps, désolé. J'ai entendu la semaine dernière, ou je ne sais plus, ça doit être ce week-end, c'est dans le langage des oiseaux, vous savez, quand on met l'intention, j'ai entendu, on met l'attention, comme si on allume quelque chose énergétiquement. J'ai trouvé ça intéressant.
Oui, c'est l'activation de l'énergie par l'intention. Donc on fait une demande et on a une réponse en fait. C'est comme quand on se nettoie d'une énergie ancienne. Il y a quelque chose qui est rempli dessus de plus lumineux. C'est en fin de compte, c'est émetteur-récepteur en continu, en fait, sur tous les plans.
Oui, c'est ça. Mais moi, ce que j'avais noté, le truc qui était. J'ai souri quand j'ai entendu ça, c'était le fait, quand vous mettez la tension, en fait, c'est comme si vous mettez une tension, comme une tension électrique. Et j'avais trouvé ça rigolo dans le langage des oiseaux.
Oui! Effectivement, c'est l'impulsion de l'intention, création énergétique, tout à fait, oui. Ce, en fait, c'est ça.
Bah, d'où l'importance, hein, quand on fait une méditation, qu'on fait quoi que ce soit, en fait, hein, le fait d'y mettre de la bonne volonté, d'y mettre, je vais mettre l'intention de faire mon ménage, on se met en énergie pour aller faire le ménage.
Ah, mais c'est tout à fait ça. Oui, tout à fait. C'est ça qui est bien. Est-ce qu'il y aurait des petites questions supplémentaires ou des sujets que vous voudriez aborder?
Oui, bonsoir. Une question peut-être complètement idiote, mais je ne sais pas du tout ce que c'est que la résolution des implants. Et une deuxième question, je n'ai jamais assisté à vos méditations, alors c'est peut-être parce que je ne me connecte pas assez tôt, C'est le lundi quand vous débutez et je ne sais pas à quelle heure vous commencez. Merci.
Alors, pour les programmes, ils sont mis tous les soirs pour le lendemain et ils sont affichés, on va dire, le long du fil du canal. En ce moment, on est à 4 méditations par jour. On devait être à 2 à la base. Oui, mais finalement, ben non, raté. Donc, il y en a une à 11h, une à 18h, 18h30 et 21h.
D'accord.
On pose le bouclier avant. Comme ça, on commence la méditation tous ensemble à l'heure précise. Et ensuite, on va sur le canal pour échanger nos ressentis, échanger ce que l'on a vu, ressenti au niveau des retours. Et ensuite, et surtout, on met bien sûr les supports vidéo pour la méditation et le support sur lequel on va travailler. Voilà.
Tout ça sur Révolution Vibratoire.
Pas sur le canal Méditons Ensemble pour la libération. Et pour les implants, les séances d'implants, Cindy va pouvoir répondre avec précision.
Excusez-moi, je n'ai pas bien compris.
Le programme, elle est, tout est sur. Pour les méditations, en fait, c'est le canal Méditons Ensemble pour la libération.
D'accord.
Et pour les sessions des implants, c'est Cindy qui va pouvoir répondre un peu plus profondément que moi sur le sujet.
C'est quoi la question ? J'ai dû aller récupérer mon chat pour la session des implants.
Donc, à quoi correspond la session des implants, en fait ?
Oui.
Oula, c'est quelqu'un qui connaît pas du tout ?
Oui, c'est moi. Oui.
Alors, c'est un peu compliqué à tout dire. Alors déjà, les sessions d'implants, il faut savoir ce que sont les implants. Donc, on l'explique au début de chaque session. Et moi, dans le chat, à chaque fois, je donne des liens complémentaires. Il faudrait que vous alliez sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa.
D'accord.
Vous avez des replays en français et en anglais. Et on vous explique tout à chaque fois. Il y a aussi, alors je vais mettre dans le chat Révolution Vibratoire. Hervé a fait aussi un article pour en parler.
Ok.
Je vais aller voir.
Bon, j'irai voir.
Merci. Oui, je vais mettre ça dans le chat. Mais bon, l'Internet, ça a du mal ce soir. C'est une horreur.
C'est vrai que la session des implants, c'est pas évident à expliquer en peu de temps. Ouais. Le mieux, c'est vraiment d'aller voir la vidéo. Bien sûr. Par contre, ça rame. Hein. J'ai mon ordinateur qui rame complet.
Ah, mais ce soir, ça rame, mais complet, c'est clair. Ça rame complet, complet. Alors, les implants. Donc, ça, c'est l'expo. Hop. On a aussi des articles dans French Wheel of Mass Meditation. L'exercice de triangulation des implants. Je vais mettre le lien. Voilà, craquer, détruire la matrice. Elle est présente, je suis aussi. Au pied. Donc, je mets ça dans le chat Révolution. Le chat Telegram Révolution.
Oui, c'est toi, super, merci.
Et copier. Il faut que vous voyez les replays en français. Et dans les replays en français, normalement, sur la droite, vous avez aussi le chat où je mets des liens internet complémentaires avec des mots-clés.
D'accord.
Il faut comprendre ce que sont les implants. Il y a aussi un article exoportail aussi. Mais nous, on ne travaille que sur les implants primaires. Il y a plusieurs sortes d'implants.
Ok. Bon, il va falloir que j'aille voir ça. C'est du chinois pour moi. Là.
Voilà, les implants éthériques et plasmatiques sur exoportail. Donc, je mets ça dans le chat. Voilà. C'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer en peu de temps.
Oui, non, mais je comprends.
Pour savoir ce que sont les implants, de quoi ils nous privent, comment dire, sur quoi ils agissent, qu'est-ce qu'ils nous empêchent de faire,
ouais.
La logique des exercices, etc. Qui est à l'origine des implants, pourquoi ? Merci les Atlantes.
Oui. Non, ben, là, j'ai de quoi travailler, là, déjà. Hein, merci.
Ah oui, déjà, oui. Puis les replays aussi en français sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa. Et ça vous aidera déjà à y voir un peu plus clair.
D'accord, super.
Il y a des liens internet complémentaires sur les articles que j'ai mis dans le chat. Voilà.
Ok, moi c'est adorable. Merci beaucoup.
De rien.
Alors... Y a-t-il des petites questions?
Encore 51 courageux. Si vous voulez donner un témoignage, demander des conseils, poser des questions sur différents thèmes, ou des questions aussi par rapport aux explications qu'on a données pour expliquer l'article de Cobra sur la situation planétaire.
Ben justement, Cindy, comment toi tu l'as appréhendé la lecture justement de cette mise à jour de la situation planétaire de Cobra?
Moi, je prends toujours toutes les informations avec beaucoup de recul parce que ma principale source n'est pas Cobra, mais ma civilisation d'origine. Donc, je reçois aussi des informations de ce côté-là. J'ai un clair ressenti de ce côté-là. Et je suis toujours une éternelle optimiste, alors parce que je sais que les négatifs, ils veulent qu'on soit dans le désespoir et dans le pessimisme. Donc, je relativise. Et j'ai toujours, suivant les liens complémentaires qu'on a, autres que Cobra, pour ceux qui sont éveillés et bien connectés à leurs origines, on a aussi des infos complémentaires. Donc, un lien en plus qui fait qu'on est rassuré ou qu'on a une équipe de soutien. Donc, on résiste et on reste déterminé. Voilà. Bon, c'est vrai qu'avec Cobra, si on se fie qu'à Cobra, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Mais Cobra lui-même a dit qu'il ne fallait pas suivre que lui, parce que si on ne suivait que lui, on n'irait pas bien loin. Il ne suffit pas de suivre Cobra pour évoluer. Voilà.
C'est tout à fait ça.
Bonsoir à tous.
Oui. Merci de ta réponse. Oui, bien sûr. Je laisse la parole ensuite. Oui, tu as raison. En fait, c'est la multiplication, la pluralité en fait des sources qui fait que quelque part ça résonne ou pas en nous. Et puis effectivement, le recul est super important parce que l'émotionnel, tout de suite, quand on lit un truc, alors ça peut être aussi bien positif que négatif. Et quand on, avant de le lire, on se dit « Ah, ok, bon, on va voir où ça en est. » Mais voilà, en prenant un petit pas ou deux de recul, métaphoriquement, ça permet effectivement d'absorber l'information, de la digérer sur le temps, sur la longueur, et puis après de la croiser avec d'autres sources, et puis d'autres ressentis, comme toi, par exemple, pour ça que je te posais la question, et puis… et peut-être d'autres s'ils veulent prendre la parole. Voilà, merci.
Oui, tout à fait. On l'a pour certains, on l'a mal pris comme ça à froid, on va dire. Mais après, oui, en se recalibrant et en se recentrant, on va dire, oui, on arrive à vite se remettre à cheval, on va dire. Hein. Et à se centrer sur ses ressentis à soi, vite fait, quoi. Donc. Oui, c'est très bien, c'est bien vu.
Oui, bonsoir à tous. Moi, je voulais vous raconter un rêve que j'ai fait récemment pour voir si vous arrivez à m'aider à l'interpréter. En fait, j'étais comme sur une colline, je surplombais une espèce de ville, je voyais le ciel et puis la ville au loin. Et à un moment donné, dans le ciel, j'ai vu tournoyer, on va dire, deux anneaux rougeoyant un petit peu, comme si qu'il y avait du feu au milieu des anneaux creux, enfin deux anneaux parallèles qui tournoyaient lentement dans le ciel. je regarde ça, et puis à un moment donné, ça se transforme en comme des vortex, des tourbillons, un peu comme des tornades blanches, un peu partout au-dessus de cette ville. J'observe, et à un moment donné, je me sens à mon tour aspirée vers le haut. C'est une drôle de sensation, et je me sens flotter. Je change d'état, je suis vers le haut, et je flotte au-dessus de cette ville. Et puis, ça m'impressionne tellement que je me réveille. Et je ne sais pas si vous avez une interprétation. Qu'est-ce que sont ces deux anneaux rouges tournoyant, enfin, en parallèle, les deux l'un sur l'autre?
Perso, je ne suis pas calée en interprétation des rêves, mais je ne sais pas, Sandrine, peut-être qu'avec les couleurs, tu as une interprétation.
Couleur rouge, ça va être un fort ancrage, on va dire. Le vortex était blanc, c'est ça, des tourbillons blancs?
Oui, c'est-à-dire qu'une fois que les deux anneaux parallèles dans le ciel qui ont cessé de tourbillonner, ils ont laissé place à des, on va dire, un peu partout, je voyais, comme tu dis, comme une tornade blanche, hein, comme un nuage, des tornades blanches bien dessinées, un peu partout, plantées comme ça sur le paysage. Et ensuite, comme si une de ces tornades a dû m'aspirer vers le haut, je me suis retrouvée flottant, tu vois, au-dessus de cette ville, dans un sentiment d'avoir changé d'état en étant en train de flotter.
Oui, tout à fait. Mais pendant le rêve, un petit nettoyage énergétique, hein, et surtout un ancrage terrestre et céleste, j'ai envie de dire. Un réalignement.
C'est un rêve qui m'aurait aidé à me réaligner.
Je vois comme ça, ça me fait penser aux colonnes bouddhiques, c'est pour ça.
Oui, c'est vrai, ça fait penser aux colonnes bouddhiques, t'as raison.
C'est vrai.
Parce que j'ai vraiment fait la méditation de la colonne bouddhique. Hein. Ouais.
Non, mais c'est bien, au contraire. C'est un ancrage terre avec le rouge au départ et ancrage céleste en même temps, quoi. Donc, un bon réalignement et un bon petit nettoyage énergétique pendant la nuit.
C'est bien. Merci, ma belle.
Encore 46 courageux. Il est presque minuit moins 5.
Moi, s'il n'y a plus trop de personnes qui parlent ou qui auraient des choses à dire, qui me donneraient envie d'écouter, bah, sinon, bah, moi, je vais vous quitter. Et bah, je dis à demain à Sandrine pour la méditation. Et une très belle journée à toutes et à tous. Et merci, merci pour tout.
Bonne nuit, Prina. Repose-toi bien.
Merci, vous aussi.
Je mets en charge mon téléphone. Hop là.
Eh bien, écoutez, pour moi, c'est le mot de la fin. Je vous souhaite une magnifique nuit étoilée avec plein de jolis rêves. Et puis, j'espère que à très, très bientôt. Et merci à tous. Merci.
Merci beaucoup, Shaun. Passe une belle nuit. Merci à toi.
Nous souhaitons une belle nuit à tous ceux qui s'endorment.
Oui, peut-être qu'il y en a qui font dodo, peut-être même.
Moi, je vous dis bonne nuit à tous et victoire de la lumière.
Merci, Chafinette. Bonne nuit, victoire de la lumière.
Victoire de la lumière.
Encore 33 courageux. je vais me permettre de vous rappeler notre grand marathon spirituel qui aura lieu le samedi 16 octobre 2021 à 20h30 heure de Paris jusqu'à à peu près minuit 30 sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa ou la page Facebook Victoria Luminis ou la page ou la chaîne YouTube anglophone Victory of the Light. Donc pour l'instant, le programme qu'on a prévu est le suivant, mais il peut évoluer. Introduction et présentation des animateurs, protocole de protection, commandement 12-21, protocole complet de guérison émotionnelle et connexion à notre présence je suis, méditation fleur de vie, annulation des contrats, dissolution implant primaire vertical, dissolution implant primaire horizontal, un peu comme dans une session d'atténuation des effets des implants, méditation cristal. Si elle est prête d'ici là, normalement oui, méditation de connexion à sa flamme jumelle, méditation pour libérer tous les otages, méditation colonne bouddhique, les lieux proposés ne seront dévoilés qu'au dernier moment pour des questions de sécurité, le feu blanc de Anne, conclusion, perspective, réaction, et bien sûr ce programme sera sorti de quelques pauses brèves sous la forme de vidéo. Et petite cerise sur le gâteau, connexion booster à travers une chambre à tachyon française, et ce gratuitement. Donc, si vous voulez participer à ce marathon, oui, on se calme. Donc, pour les chambres à tachyon, il y a un protocole à suivre. Donc, normalement, on a la chambre Jardin des Pléiades de Gouen en Bretagne qui va participer, et si nécessaire, la chambre à tachyon d'André en Normandie, près de Caen. Donc, nous invitons les participants à envoyer leurs photos avant cet événement pour que nous puissions mettre votre photo dans la chambre durant ce marathon spirituel, mais seulement à certains moments clés et certainement pas pendant les 4 heures d'affilée. Eh bien non. Alors, pour envoyer votre photo, vous devez envoyer un mail à l'adresse suivante marathon.spirituel@gmail.com au plus tard avant le vendredi 15 octobre 2021 à minuit. Mettez une photo de vous seul en pièce jointe au mail, avec votre visage ou dans votre intégralité, donc une photo des pieds à la tête, en précisant votre nom et prénom. La photo sera imprimée sur papier photographique. Si la photo n'est pas individuelle, elle sera considérée comme invalide. Vous pouvez aussi envoyer les photos par courrier, mais ça, c'est expliqué dans notre article spécial que je vais remettre dans le chat Révolution Vibratoire. Voilà. C'est une grande première, un marathon spirituel. Et si ça vous plaît bien et que ça marche plutôt bien, nous serons prêts à le réorganiser. Voilà.
Un super programme.
Oui, un super programme.
Bonne initiative, Cindy, j'y serai.
Yes, plus on sera nombreux, mieux ce sera.
Il est tout pile minuit.
Et je dirais bien sûr que la meilleure boussole, c'est vous-même.
Oui, oui.
Vos ressentis, votre discernement. Et vous faire confiance en ce que vous ressentez, surtout. Je viens de le voir passer sur le chat, c'est effectivement hyper important. Personne d'autre à part vous-même ne peut déterminer ce que vous ressentez.
Ouais, ouais. Je vais laver maintenant.
Voilà. Donc, Marjorie, tu lèveras la main. Tu veux parler?
Y a-t-il des questions, des témoignages, des anecdotes, des demandes de conseils? Des réactions. Je crois qu'à minuit, les gens changent de plan. N'est-ce pas, Sandrine?
Oui.
Tu pourrais pas un jour nous expliquer. Pardon. Tu me dis, tu pourrais pas un jour nous expliquer les messages que tu reçois, toi, de ton côté?
Ah non, je ne channel pas, moi.
Ah.
Non, je ne channel pas du tout, parce que de toute façon, 99,9% des channelings sont parasités. Et de toute façon, quand on a une civilisation d'origine, on ne la channel pas, de toute façon. c'est ah, en soi, ou c'est de la communication directe, ou c'est en soi, ou de la télépathie, mais c'est pas la canalisation.
D'accord, donc c'est pas des messages à nous tous, quoi. C'est juste pour toi.
Ah, mais il y a des infos que je partage, hein, dans les lives ou en message privé ou etc. Mais
D'accord.
Mais je ne channel pas, je ne canalise pas. D'ailleurs, ceux qui canalisent, je ne sais pas comment ils font, parce que de toute façon, forcément, ils sont parasités, ils passent par des portes, on va dire, pas très positives, car ils vont sur le plan astral qui est très parasité et mal fréquenté. Ce n'est pas Hervé qui dira le contraire, comme il le dit dans ses articles.
En ce moment, en pleine séparation de ligne de temps, il n'y a pas bon de se connecter sur l'astral. Ça, c'est... D'où chacun doit se faire confiance. On insiste. N'allez pas chercher les réponses ailleurs. Prenez que ce qui résonne correct en vous-même.
Oui, bonsoir.
Oui,
je voulais savoir pour le marathon de la chambre, avec les chambres à Tachyon, c'est pour le marathon pour le 16.
Oui, c'est pour le samedi 16 octobre entre
20h30 et minuit. Le vendredi, j'ai une séance de chambre à Tachyon avec André. Ça pose un problème ou…
Non, il faudra renvoyer votre photo.
D'accord. Mais sinon, ça ne pose pas de problème d'en faire deux de suite.
Alors, en fait, vous aurez le vendredi, ce sera un soin à distance que vous aurez.
Oui,
par contre, le samedi soir, oui, c'est différent. Le samedi soir, en fait… C'est marqué dans l'article. Alors, cette connexion à travers la chambre à Tachyon ne sera pas un soin énergétique ce soir-là, mais nous permettra de travailler plus étroitement avec nos galactiques positifs et familles d'âme. Et cette connexion vous servira également de booster énergétique.
D'accord. Donc, ça ne pose aucun problème que j'en ai deux de suite, enfin, une le vendredi, une le samedi.
Non, parce que ce n'est pas le même but. Et de toute façon, ce n'est pas un souci parce que, par exemple, moi, en ce moment… Pendant 4 jours, j'ai une session à distance par jour.
D'accord, ok.
Donc, voilà, c'est pas un souci.
Ok, bon. Bah, ok, bah, je vous enverrai ma photo alors.
Pour l'instant, c'est avec la chambre de Gwen en Bretagne. Et s'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de participation, il y a celle à André en Normandie aussi, mais il faut envoyer sa photo avec les critères demandés dans l'article, dans l'adresse mail qui est dans l'article.
Oui, de toute façon, ça ne pose pas de problème que ce soit l'un ou l'autre. Du moment qu'on envoie la photo à la bonne adresse mail, ça suivra.
Voilà. En fonction de après, ce sera dispatché de toute façon.
Voilà, c'est ça, ouais. Mmh. Ok. Bah, il n'y a pas de souci alors. Mmh. Au revoir.
Au revoir.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Niveau turbine ? Des sujets précis ? Profitez-en.
S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous titille.
Si on peut répondre, ne pas hésiter.
C'est bien calme. Je pense qu'il y en a qui se sont endormis, Sandrine. Ça arrive toutes les semaines.
C'est possible en même temps. C'est vrai que c'était assez, assez riche. Et pour tout suivre, ce n'est pas évident. Quoi. Et s'il n'y a plus de questions, ben, je vais pouvoir vous laisser pour aller dodosser, pour aller plonger dans les bras de Morphée un petit peu.
Se recharger énergétiquement et physiquement.
Ouais, c'est clair.
Et des fois, on travaille sur d'autres plans. Même quand on dort, on travaille, on change de plan. N'est-ce pas, Sandrine?
C'est clair. Je me demande si on se repose un jour, en fait.
C'est clair.
Puis, je me demande, est-ce que enfin, ça, j'avais entendu ça sur QAnon, mais bon, je sais que ça ne vaut pas trop la peine d'écouter. Mais moi, je suis sûre qu'il y a l'histoire de l'ordinateur quantique en ce moment. Il y a un enjeu énorme sur Terre, c'est l'ordinateur quantique. Qui va contrôler l'ordinateur quantique? Et c'est pour ça qu'ils sont obligés là-haut d'intervenir, parce qu'on ne peut pas laisser un outil aussi puissant entre les mains des négatifs, parce que là, on est mort. Et est-ce que vous savez ce qu'il en est de l'ordinateur quantique sur le plan physique? Est-ce que l'Alliance le contrôle? Quel ordinateur?
Alors ça, ce serait plutôt Hervé qui aurait la réponse à la question, mais il n'est plus là.
Oui, oui, ça marche. Prochaine fois, alors.
On a tous nos domaines de compétences. Ouais. On agit tous sur des plans différents. On a tous des sources complémentaires différentes.
Je me permets d'intervenir. Bon, je n'ai pas beaucoup parlé pendant toute l'émission parce que je ne rentre pas dans le cadre de tout ce qui est dit actuellement, enfin tout ce qui a été dit. Par contre, je peux parler de l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique n'est qu'un ordinateur exactement de la même façon que ceux que vous avez à la maison. La seule différence, c'est qu'il travaille sur l'infiniment petit, alors que les ordinateurs classiques tels que nous les avons ici sont des ordinateurs qui travaillent sur le présent avec des 1 et des 0. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'en dirai pas plus, parce que je ne rentre pas tout à fait dans le cadre de votre discussion, surtout qu'il y a beaucoup de sentiments et d'émotions qui sont partagés, alors que ça peut être seulement des problèmes de malaise personnel dus à des inquiétudes particulières de la vie courante. Voilà, j'insiste pas plus. J'étais en communication avec Henri là, tout à l'heure, et puis on en a un petit peu discuté, mais je crois qu'il a été couché.
Merci Christian pour vos informations.
Pardon,
non, je vous remercie simplement pour vos informations. J'espère que Chafinette est satisfaite de vos apports d'informations.
Non, mais il n'y a pas toi, merci.
Enfin, d'après l'Alliance Q, c'est Palantir, la société qui était affiliée, je pense, à la CIA, qui a développé pas mal de systèmes d'information à la CIA, qui a été reprise par l'Alliance Positive et qui possède l'ordinateur quantique peut-être le plus abouti. Ce serait la société Palantir. Mais c'est vrai que Cobra n'a jamais parlé de ça. Là, c'est vrai que dans le dernier message, il parlait du cristal temporel. Donc, c'est une technologie qui va permettre d'améliorer. Donc, c'est Google qui a créé ça pour améliorer la qualité, la stabilité de l'ordinateur quantique qui, effectivement, travaille sur des qubits. C'est-à-dire, les bits, c'est 0 et 1, mais c'est 0 et 1 en même temps dans l'ordinateur quantique. C'est-à-dire, c'est à deux états en parallèle. Mais après, c'est vrai que dans Q, il disait que c'est la société Palantir qui est aujourd'hui sous contrôle des positifs. Mais bon.
Déjà, il y a deux choses qu'il faut. Moi, je suis un enquêteur. Hein. Je suis quelqu'un qui enquête sur un autre sujet que ce que vous êtes en train d'aborder ce soir. Il y a une chose primordiale qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. C'est d'abord de garder l'esprit critique, de savoir, de pouvoir absolument découvrir d'où vient l'information et de qui elle vient. Et quand vous comprenez que vous devez chercher l'origine de l'information et de qui elle vient, à ce moment-là, vous pourrez dire c'est du sérieux ou c'est pas du sérieux. En attendant, tout ce qui concerne le QAnon et tout ça, là, c'est plutôt du farfelu et c'est plutôt du complotisme et des trucs comme ça qui rentrent en ligne de compte. Là, c'est les premiers éléments que moi j'ai pu avoir. Et c'est très compliqué d'essayer de convaincre les gens que tout ce qu'ils lisent et tout ce qui est écrit dans des livres ou dans des trucs comme ça, il faut absolument ne pas tout croire au mot pour mot. Les gens croient jusqu'à la virgule près. Et ça, c'est très, très, très dérangeant. Moi, je sais que sur le plan des objets volants non identifiés dont je suis peut-être pas un spécialiste, mais disons quelqu'un d'assez bien informé, il sort très régulièrement tous les mois une vingtaine ou une trentaine de livres sur les ovnis, dont 99,9% ne sont que du farfelu et issus de gens qui ont besoin d'avoir de la reconnaissance et qui publient ce genre de bêtises qui nous polluent vraiment l'atmosphère, parce qu'une fois qu'une information est transformée en croyance, il nous faut dépenser une énergie immense pour pouvoir convaincre la personne qu'elle se trompe. Et c'est pour ça moi je reste dans le cadre de la science formelle, mais disons dans le cadre d'une enquête avec des preuves et des éléments probants. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors ne croyez pas tout ce qui est écrit, parce que c'est vraiment très important. Et en ce moment, avec le Covid-19 et tout ça, il y a plein d'informations, de fac et des trucs comme ça qui sont tellement mensongers, et etc., que les gens croient n'importe quoi. Voilà, il ne faut pas croire tout.
Ça, c'est vrai. Il faut faire ses propres recherches et faire preuve de discernement. C'est très important. D'ailleurs, on prévoit un radio Pléiade sur le discernement. Donc, faire preuve de discernement intellectuel, mental et énergétique et spirituel aussi, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'ego, dans le domaine de la spiritualité, de l'ufologie, c'est dingue.
Ah, mais c'est fou, mais c'est absolument monstrueux, hein, parce que quand on voit certaines personnes qui vont aller jusqu'à prétendre qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, qu'ils ont passé des années dans l'espace avec ces gens-là, alors qu'on découvre très, très facilement qu'ils étaient au chômage et qu'ils ont pointé tous les mois à Pôle emploi, ils se foutent et ils écrivent des bouquins, hein, faut pas croire. Hein. Ils écrivent des bouquins et leur histoire semble tout à fait crédible. Pour moi, je les appelle des vendeurs d'aspirateurs. Je les appelle les vendeurs d'aspirateurs. Voilà, ce sont des bons, comment on appelle ça, des bonimenteurs, voilà.
Mais il y a toujours des gens pour les suivre, c'est ça le truc.
Exactement, c'est ça, et c'est ça qui me désole.
Parce ils que, le savent, hein. Ils voilà. Osent sur ça. Mmh.
Eh ben, Raël, regardez voir Raël, tout simplement.
Encore 24 courageux.
Et je voudrais dire un truc, moi, sur l'intelligence artificielle, si vous m'entendez.
Oui, Cyril.
Si on prend en considération les archontes qui ont envahi la Terre il y a longtemps, ils ont donc une technologie qui a fait que leur planète a succombé, en fait, à l'intelligence artificielle. Donc, il y aurait aussi, en quelque sorte, deux lignes de temps dans cette fameuse intelligence artificielle qu'on a à l'heure actuelle sur la Terre. C'est soit on se laisse envahir par une intelligence artificielle de type archontique qui nous emmènera petit à petit dans le transhumanisme et qui fera que les humains deviendront des machines, soit on ira vers, je dirais, plus une intelligence artificielle type quantique. C'est-à-dire qu'il sera capable, à quelque chose près, de ressentir un peu l'intention de la personne qui est connectée un peu à l'Internet, quoi. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire exprimer. Ben, bien m'exprimer là-dessus, quoi.
Mais normalement, on est sur une ligne de temps positive, stabilisée, logiquement, vers l'ascension.
Oui. En tout cas, oui, c'est ça, oui. Il y aurait comme deux. Ça serait comme une, en fin de compte, une intelligence artificielle qui serait faite par la Fédération des mondes libres. Donc, avec une intelligence qui serait capable de comprendre en quelque sorte ce que c'est que l'intention et certaines choses de la vie qui sont importantes et qui ne font pas glisser les gens dans l'autre ligne de temps. Voilà, je ne sais pas qui c'est qui en parlait dans un de ses rapports. Il expliquait par exemple que la ligne que le système quantique QFS serait capable de ressentir l'intention de celui éventuellement qui veut sortir de l'argent derrière ou un truc comme ça.
Oui, justement, je voulais parler du QFS. Cobra, corrigez-moi si je me trompe, mais Cobra a bien dit qu'après l'événement, on passera sur le nouveau système financier QFS, donc quantique. Donc, oui, il y a bien l'ordinateur entre les mains de notre alliance. Mais lequel ?
Moi, c'est sur ça, en tout cas, que mes idées vont plus. Vu qu'on est créateur, je focus plus mes idées là-dessus, en tout cas. C'est comme si on soutenait les lignes de temps, en quelque sorte, quoi. De toute façon.
Bah oui, exactement. Et ces lignes de temps, elles prennent vie, si je puis dire, elles se manifestent de par nos pensées.
Et voilà, par rapport à notre conscience, par rapport à nos énergies, etc. Et donc moi, il est clair que pour l'humanité, en ce qui me concerne au niveau de ce que je ressens, de tout ce que je fais depuis des années et tout, au niveau de mes recherches et tout, je suis plus pour que l'humanité sorte de cette intelligence artificielle archontique là, qui est merdique, qui est en fin de compte qu'une pâle imitation du champ akashique, hein, quelque part, mais de façon archontique, pour aller vers une intelligence quantique, là, cette fois-ci, qui sera tournée vers la lumière et qui portera l'homme vers un chemin évolutif que involutif.
Si je me trompe, mais je crois que Cobra a bien parlé du QFS, qu'on passerait sur un nouveau système financier après l'événement QFS. C'est peut-être une étape.
Je crois que c'est QFS. Tout ce qui est économie, ce n'est pas ma spécialité, c'est plutôt Hervé qui se concentre sur cette chose-là. Et Jonathan, Hervé et Jonathan d'Exoportail, Hervé de Révolution Vibratoire et Jonathan d'Exoportail aussi. Jonathan qui publie pas mal d'articles sur le Grand Reset, système QFS, économie, crypto-monnaie, etc.
Après, pour te rejoindre, Cyril, je pense que ça sera peut-être une phase intermédiaire, cet ordinateur quantique, pour arriver à ce dont tu parles, à s'affranchir justement de cet outil-là, à terme, peut-être.
Oui, peut-être. Après tout, vu qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, de toute façon. Oui, c'est vrai qu'on va avoir des surprises dans tous ces domaines-là. Mais en tout cas, une intelligence guidée, c'est clair que les gens prennent conscience de certaines choses pour que l'intelligence artificielle change sur la Terre, quoi. Qu'elle soit plus tournée vers la censure, vers tout un tas de choses.
De toute façon, ce serait une évolution vibratoire. Donc, vibratoire, ce sera vraiment l'inverse du système archontique. Ça, c'est évident, évident.
D'accord avec toi, on ressent quand même instinctivement une méfiance par rapport à l'intelligence artificielle.
Carrément. Carrément.
Moi, je vais vous laisser parce que je commence à fatiguer. J'ai des choses à faire demain. Il est presque minuit et demi. Ouais, je ne sais pas si Sandrine peut rester plus longtemps. Mais sinon, le salon vocal reste ouvert pour que vous puissiez communiquer entre vous de toute façon. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous souhaite une bonne nuit et une bonne entraide entre vous.
Idem, je vais aller faire dos. Et on a pas mal de taf demain sur le groupe à faire des méditations. Donc, belle, belle, belle nuit. Et ressourcez-vous bien. Et prenez grand, grand, grand soin de vous, chacun. Et à très, très bientôt. Et merci de votre présence, bien sûr.
Ouais, je vous salue aussi. Au revoir.
Bonne nuit. Bonne nuit.
Bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves.
Pareillement. Au revoir à tous.